Moitié sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 31 mai 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 1er juin dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. On a failli se faire prendre par la petite lumière rouge.
Et par surprise.
Au programme de ce soir, Madame Marie-France Garraud, bonsoir Madame.
Bonsoir.
Qui nous fait l'honneur de venir nous retrouver.
Le plaisir.
Pour présenter son livre La fête des fous qui vient de paraître. Elisabeth Escal, bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
Que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, puisqu'elle a été l'assistante du commandant Guillaume pendant
8 ans et demi,
et qui vient présenter la biographie du commandant. Mon âme à Dieu, je raccourcis, mais c'est mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon honneur à moi.
La devise de l'homme de guerre.
Et mon père ajoutait, et mon cœur aux femmes. Enfin, à ma femme. Soyez raison polie. Arnaud Raffard de Brienne, bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Alors, c'est Arnaud, c'est pas Daniel, c'est la dynastie des Raffard continue à sévir dans l'édition, enfin dans la littérature, ou plus exactement dans le document, puisque Arnaud Raffard de Brienne publie fort à propos un livre intitulé La désinformation autour de l'esclavage. Nous aurons au téléphone Jean-Marc Savary, directeur de la revue Liber Mirabilis, revue d'études des civilisations comparées. C'est une partie d'émission exclusivement réservée aux gnostiques. Et puis en deuxième partie, Michel Delière et Madame von Egmont-Florian, agrobiologiste, avec qui nous bavarderons, nous entretiendrons de la possibilité d'un retour à la Terre. Et quand je parle d'un retour à la Terre, ça ne veut pas dire 6 pieds sous terre, ça veut dire un retour à l'agriculture. D'ailleurs, je crois, Madame Garraud, que c'est une de vos activités méconnues.
C'est même la seule qui me reste. En titre, je suis toujours exploitante agricole.
Exploitante agricole.
Et j'exploite, en fait.
C'est quand même, je dois dire que c'est assez inattendu quand on vous voit.
Ça fait quand même 35 ans, vous savez.
Oui, mais disons que quand vous êtes à Paris, vous le cachez bien. Vous ne portez pas de bottes de caoutchouc.
C'est d'un usage modéré dans les rues de Paris.
L'actualité est ce qu'elle est. Pardon. Et nous en parlerons tout à l'heure. Je crois que notre camarade Goffman qui est là, contrairement au marquis.
Présent, oui.
Il ne s'embête pas le marquis d'ailleurs.
J'espère qu'il s'embête pas, puisqu'il nous prive de sa présence. J'espère que c'est bien pour aller faire le fou aux quatre coins de l'Europe, comme il nous le raconte.
En ce moment, je l'ai vu au téléphone.
Il n'est pas en prison.
Il est allé se reposer dans un hôtel. Comment appelle-t-on
dans
ça?
Dans le Poitou.
Dans le Poitou, un hôtel du Poitou. Mais comment ça s'appelle? Un
la
hôtel.
Nice.
Relais Château.
Oui,
c'est
bien.
Ça, un Relais Château.
Vous savez bien que c'est pas un Formule 1.
À Croutel, peut-être. Il y a un bon hôtel à Croutel.
C'est pas, mais un endroit à apparemment fantastique, à une petite réserve de presse, et comme il n'y a personne en ce moment, le cuisinier a décidé de faire des expériences culinaires. Et alors, le camarade Marquis, qui est pas très très porté sur l'innovation en matière gastronomique, il commence à tendre un peu le nez. Victoria est revenue. Vous étiez où, vous, Victoria? À Toulouse?
Moi, j'étais près de Toulouse, oui.
C'est pas vous qui avez fait exploser le...
Non, je n'ai rien fait exploser du tout, mais il faisait un très très beau soleil. Il faisait même chaud, je dis ça à tous les Parisiens.
J'ajoute qu'il fait 13 degrés aujourd'hui à Paris et 17 à Rennes, allez comprendre.
Il n'y a plus de saison.
Une petite gelée blanche en Poitou.
C'est Chirac qui détraque le temps, à mon avis.
Il ne peut plus porter aucune responsabilité. Maintenant, il faut arrêter de le charger. Parce
je
que
crois, oui, ça c'est
comme il est comme un baudet du Poitou, d'ailleurs, en l'occurrence. Madame Garou, vous publiez donc un livre qui tombe. Alors, vraiment, on ne peut mieux, puisqu'il s'appelle
si
La Fête
dire,
des Fous.
Si on peut dire.
Oui, si on peut dire, bien sûr. Il s'intitule La Fête des Fous, qui a tué la Ve République. Alors, La Fête des Fous, on a vraiment l'impression, je disais ce matin à un ami au téléphone, c'est La Nef des Fous. Mais,
titre célèbre.
Titre célèbre. Mais là, en ce moment, on a vraiment l'impression qu'on est dans une espèce de sarabande infernale.
Quand j'ai choisi ce titre, j'ignorais que l'actualité serait-elle en effet quand on ne me poserait pas la question du choix du titre. Je pensais que ce serait difficile, qu'il fallait à chaque fois que j'explique qu'ayant choisi le mythe de Don Juan pour le livre et pour l'histoire de Mitterrand face du commandeur de Gaulle, je devrais expliquer que dans Don Juan, Mazzetto dit « elle est finie, la fête des fous », etc. Personne ne me demande la moindre explication.
Non, bah, tout le monde pense que
tout
c'est
tout le monde pense que j'ai choisi le titre en fonction de l'actualité.
Alors, une chose que je voudrais dire tout de suite, parce que vraiment, c'est ce qui m'a frappé avant tout, c'est l'extraordinaire qualité de l'écriture.
Parce que extraordinaire, faut pas exagérer.
Ah si, propre. Exceptionnel. Maintenant, dans l'édition actuelle, c'est très exceptionnel de lire un livre écrit d'une façon aussi élégante, et surtout de la part, je sais pas si j'oserais le dire, d'une personnalité politique. Non, c'est pas ça que je pensais. d'une personnalité politique, parce que on est accablé de livres de personnalités politiques qui sont écrites d'ailleurs probablement par le pied gauche.
Je veux dire, en général, de leur, souvent, ils ne sont pas écrits par eux-mêmes.
Oui, c'est ça. Par le pied gauche de leur d'un collaborateur désœuvré. Et là, on voit bien que c'est pas été écrit par un pied, par un pied gauche non plus, et probablement ça a été écrit par vous-même, parce que
il
y a des accents qui ne trompent pas. Et il y a des phrases un balancement vraiment, c'est remarquable. Même si on s'intéresse pas à la politique, même si on s'intéresse pas à l'histoire de la Ve République, il faut lire ce livre parce que c'est une très très belle leçon de style.
On faisait autrefois en classe des analyses grammaticales. Oui. Je crois que ça donnait un balancement. La phrase.
C'est interdit aujourd'hui, vous le savez?
Je le sais, puisque j'ai des enfants et des petits-enfants, et je pense que c'est très fâcheux, parce que ça donnait à la structure de la phrase, de la langue, et donc de la pensée, à mon avis, un certain rythme, qui est en fait celui de la respiration, d'ailleurs, parce qu'après, les phrases suivent la respiration, d'une certaine manière, d'où les éternelles querelles de ponctuation.
Ah oui, ça, c'est avec l'usage du point-virgule, dont...
Mais surtout l'usage de la virgule, maintenant, et la virgule. Avant le « et ».
Oui, qui est réclamé. Maintenant, avant les conjonctions de coordination,
absolument,
on nous réclame une virgule. Redondant, idiot. Mais j'imagine que vous avez fait des études classiques.
J'ai fait des études classiques.
J'ai fait du latin, du grec.
J'ai fait du latin, pas de grec.
Pas de grec.
À l'époque, ça s'appelait le baccalauréat C. Latin, oui, une langue, mathématiques et français. Mais j'ai fait du droit. Le droit donne tout de même un sens de la précision du mot. Le droit est une langue qui implique la précision des dénominations.
Moi, j'avais toujours entendu dire que le droit était une façon discrète de se montrer courbe, mais enfin, c'est pas...
Non.
Mais comme disait Coluche, 5 ans de droit et tout le reste de travers.
Si vous voulez, on pourrait dire que ça donne l'habitude de se montrer habile d'une certaine manière, peut-être, mais courbe me paraît... Non, la notion de courbe n'est pas une notion juridique du tout.
Bien, alors, c'est préliminaire étant dit, je voudrais vous poser la première question qui est celle du fond même du livre. En fait, vous expliquez dans ce livre que les institutions de la Ve République ont été en quelque sorte mises à mal par les successeurs du général de Gaulle, qui trouvaient le costume ou trop grand ou mal adapté, ou plus exactement le char de l'État pas très facile à conduire avec une mécanique pareille. Mais est-ce que la question n'est pas de savoir si vraiment cette constitution de la Ve République n'avait pas en elle-même les germes de sa propre destruction?
Non, je ne crois pas. D'ailleurs, cette Ve République, ces institutions, elles sont très claires. Elles sont faites pour que quelqu'un puisse gouverner. Récemment, dans une discussion, on évoquait les prémices de ces institutions, le discours de Bayeux du Général, les livres de Tardieu, qui, réfléchissant sur les heures et malheurs de la Troisième République, et considérant qu'il ne pouvait plus rien faire au gouvernement, compte tenu précisément du régime d'assemblée qui sévissait, a réfléchi sur les institutions et était arrivé à la réflexion sur une organisation qui est très voisine de celle choisie par le général de Gaulle, qui d'ailleurs s'en est inspirée. En fait, pour que la France, qui est une puissance moyenne, puisse être gouvernée, il faut qu'elle le soit d'une main unique et exigeante. C'est-à-dire qu'il y ait un chef, un maître d'équipage. Ce maître d'équipage, c'est le président de la République qui a la plénitude du pouvoir parce qu'il est investi par l'élection présidentielle.
Au suffrage universel.
C'est donc lui qui, sur la ligne qu'il a définie au moment de l'élection, en se présentant seul avec un projet en face devant le peuple, est chargé par le peuple d'appliquer et de conduire le pays sur cette ligne. Pour ce faire, il choisit un premier ministre qui dépend de lui et de lui seul. Et ce premier ministre lui propose un gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre la politique définie par le président de la République. Quant aux parlementaires, qui sont eux aussi élus au suffrage universel, mais si je puis dire circonscription par circonscription, d'où ils tirent leur légitimité, ils votent les lois. Et ils ont un pouvoir politique, qui est un pouvoir politique important, ils peuvent voter la censure. C'est-à-dire que lorsque l'action du gouvernement ne leur paraît pas convenir aux intérêts du pays, ils peuvent décider de le censurer. Et c'est là où on voit, si je puis dire, ce qui caractérise la Ve République, c'est le léger décalage qu'il y a entre la plénitude du pouvoir présidentiel et la réalité du pouvoir du Parlement. Car le président de la République peut gouverner, et même il a souvent gouverné, spécialement du temps du général de Gaulle, sans majorité parlementaire. Il n'est pas nécessaire qu'il ait une majorité parlementaire. En revanche, les parlementaires, pour renverser, pour censurer le gouvernement, doivent eux avoir une majorité. Autrement dit, le système ne risque pas un blocage intempestif, comme ce serait par exemple le cas dans un régime présidentiel. Car s'il y a un conflit entre le gouvernement et l'Assemblée, ce conflit serait soit par une motion de censure, et dans ce cas-là, on retourne devant le peuple, soit, si le gouvernement n'est pas censuré, le président de la République peut continuer à gouverner, il peut changer de premier ministre, il peut décider ce qu'il fait. Voilà quelle est l'organisation du pouvoir. Elle a d'ailleurs parfaitement bien fonctionné, non seulement avec le général, mais avec Georges Pompidou. Je crois que le problème de la Ve République, bien entendu, et on y reviendra sans doute, il vient du fait que, immanquablement, les parlementaires souhaitent toujours le régime d'assemblée. Ça, c'est inhérent. Chacun a envie d'exercer plus de pouvoir qu'il n'en a, même quand il n'exerce pas. Même quand il n'exerce pas ce qu'il détient, ce qui est le cas en ce moment, par exemple. Bon. Mais la vraie racine de la destruction, elle est dans le conflit Mitterrand-De Gaulle. Je crois que là, on touche à ce qui est romanesque dans cette histoire. Alors, François Mitterrand, il n'avait pas une idée particulière sur les institutions de la France. Il naviguait très bien dans celle de la 4e.
C'est un homme de la 3e.
De la 4e. Il naviguait très bien dans la 4e République. Il était habile, intelligent. Il allait être président du Conseil. Et au moment où il allait être président du Conseil, le général De Gaulle, qui l'avait d'ailleurs assez traité avec un certain dédain comme un résistant de fraîche date à la libération, avant la libération, le général arrive et, si je puis dire, prend la France sous ses yeux, j'allais dire sous son nez. Il en a ressenti une humiliation, une frustration qu'il ne dissimule pas et qui durera toute sa vie. Je n'ai pas interprété, je n'ai pas prouvé, je le cite. Le coup d'État permanent est un cri de haine, c'est d'ailleurs le meilleur livre de François Mitterrand, mais c'est un cri de haine, si j'ose m'exprimer ainsi, qui sort des tripes. C'est ce qu'il y a de plus vrai chez lui. L'arrivée de Gaulle lui était insupportable. Et il s'est trouvé en situation il s'est mis en situation de rivalité contre le général avec une idée, elle, géniale, car je crois qu'il savait qu'il n'était pas de la taille du général, il le savait très bien. Mais il a compris qu'en se posant en rival du général...
Mais s'il l'avait oublié, De Gaulle ne serait pas fait une faute de lui rappeler à toutes ces occasions.
Et il a compris qu'en s'affrontant au général, qu'en étant le rival du général, il participerait de la grandeur du général. D'où sa candidature en 1965, qu'il a préparée méticuleusement. Elle n'était pas acquise. Les gens de la gauche de l'époque n'avaient aucune envie de voir Mitterrand revenir ainsi.
Il sortait de loin.
Et il a organisé cette candidature, il s'est arrangé pour qu'il soit le candidat de la gauche, il a de surcroît fait un score tout à fait respectable, il est donc devenu le rival. Et toute son action n'a pas été une action politique au sens projet pour le pays. Ça a été une action conçue pour la victoire en phase 2. C'est d'ailleurs pourquoi il est passé tranquillement de l'extrême droite à l'union de la gauche sans le moindre problème, en parcourant à peu près tout l'échiquier politique. Puis d'ailleurs après, quand il a été élu, il est repassé de la gauche vers la droite, dans les années 83. Autrement dit, c'est ça la ligne directrice. C'est lui qui a véritablement porté le défi. Il l'a dit. Il l'a dit, surtout à la fin de sa vie, au moment où il disait tout.
Il y a une chose qu'on a pas suffisamment remarqué, à mon avis, à l'époque où les deux hommes étaient affrontés, c'est qu'ils sortaient du même moule. Ils sortaient tous les deux du moule de l'Action française. De Gaulle avait eu une formation maurrassienne, et Mitterrand aussi.
Mais De Gaulle était... il suffit de voir les écrits de De Gaulle et ceux de Mitterrand à peu près à la même période. La différence est éclatante d'entrée de jeu. Il y en a un qui a une certaine idée de la France, et l'autre qui a une certaine idée de lui-même.
Oui, ça c'est...
Et c'est ça la vraie différence.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que Mitterrand avait une certaine idée de lui-même.
Ça se trouve encore aujourd'hui à l'Action française, ce genre de personnalités diverses.
Bien sûr.
Il n'imaginait même pas probablement que quelque chose, quelqu'un autre que lui-même soit digne d'exister, Mitterrand. C'était la narcissisme.
Je ne voudrais pas vous amener sur un terrain dont je sais que vous ne l'aimez pas, parce que c'est trop personnel, mais quel était votre opinion en tant qu'individu sur Mitterrand? Est-ce que vous aviez de la répulsion, du mépris, de la considération?
Non, j'ai aucune répulsion, aucun mépris particulier. Moi, j'ai finalement très peu rencontré François Mitterrand avant qu'il soit élu président de la République. Je l'ai rencontré dans des circonstances très particulières. Quand je m'occupais des relations parlementaires pour Jean Foyer quand il était garde des Sceaux. Si vous voulez, je peux vous dire comment je l'ai rencontré la première fois. Il s'agissait de la Cour de sûreté de l'État. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée. Par conséquent, sur ce texte, il y avait lieu de désigner le rapporteur. Et nous avions, sur ce sujet, une voix de majorité à la commission des lois. Et j'étais donc allé veiller le matin, que toutes les petites troupes soient là, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de la commission. Toujours est-il que lorsqu'on est passé au vote, il manque une voix. Et c'est François Mitterrand qui a eu le rapport sur la Cour de justice. Il fallait annoncer ça. Moi, il fallait que j'annonce ça au ministre. Et il fallait que le ministre l'annonce au Premier ministre, qu'il l'annoncerait au président de la République. Et à l'époque, le général de Gaulle n'intervenait jamais dans le détail des choses, jamais. Bon, nous savions qu'il convenait d'éviter que cette erreur se reproduise, et on a réglé le problème d'une manière très particulière, grâce à Capitan d'ailleurs. En regardant le règlement, on savait que Mitterrand allait faire un grand discours politique et puis qu'il abandonnerait le rapport. Il n'avait aucune envie de participer à la discussion. Et en regardant le règlement de l'Assemblée, nous avons vu que le président de la commission pouvait se saisir d'un rapport à n'importe quel moment. De sorte que lorsque Mitterrand a pris la parole, on dit sur d'une violence extrême, sur ces questions, et sur le gouvernement de l'époque, il s'est rassis, et dans un certain brouhaha, le président allait suspendre, Capitan s'est levé, a dit « Inutile, je rapporte ». Et comme au cirque, sans suspension, la séance a continué. Voilà, j'ai peu vu Mitterrand, et je n'ai eu aucune aversion personnelle pour Mitterrand, qui était un homme, je l'ai rencontré après deux ou trois fois quand il était président de la République, une fois à sa demande sur les questions spatiales. Et non, simplement, il haïssait, plutôt, il... Oui, c'était, j'ai pas osé utiliser le mot dans le livre, parce que je ne suis pas sûre que les lecteurs auraient compris que Lucifer était le plus beau des anges et qu'il aurait voulu être Dieu, mais qu'il n'était pas Dieu. Mais il est plus proche de Lucifer que de Don Juan, d'une certaine manière.
C'est certain.
Plus dans son tempérament. Je crois qu'il a parfaitement bien compris la grandeur du général. Il aurait voulu être le général, mais il n'était pas le général. Alors il pouvait être et il devait être le rival du général.
Mais quand il s'agissait de Gaulle, Mitterrand perdait littéralement son bon sens. On en a une preuve dans un texte qu'il a écrit quand il raconte son arrivée à Londres au début de la guerre, enfin de l'occupation. Et donc il va à Londres et il a une phrase qui est extraordinaire, parce que c'est un homme intelligent, indiscutablement, et c'est un homme qui s'est posé sa plume lui aussi. Il écrit pas n'importe quoi. Or il écrit une chose qui n'a absolument aucun sens. Il dit: lorsque j'arrivais à Londres avec mes souliers crottés, et d'ailleurs cette histoire de souliers crottés revient d'une façon monomaniaque dans ses mémoires, on retrouve à toute l'occasion, il explique qu'il a les souliers crottés, quelles que soient les raisons. Et avec mes souliers, on m'enferma dans une pièce sans porte ni fenêtre.
Oui, il aime les notations de ce genre. D'ailleurs, quand il raconte sa première rencontre avec le général, il appuie longuement sur le fait que le général avait une poignée de main molle. C'est-à-dire, on a toujours le sentiment qu'il cherche chez le général une critique qui puisse une critique de faiblesse. Bon, alors évidemment, il n'a jamais réussi à vaincre le commandeur. D'ailleurs, je dois vous dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour ça, les uns et les autres, bien entendu. Et il a réussi à être élu en 1981, et à ce moment-là, il a pris, tout le monde le sait, qu'il était malade. Et je pense que ça a très fortement pesé sur son comportement. On le comprend d'ailleurs, quand on attend depuis 20 ans de s'asseoir dans un fauteuil et que 3 mois après d'y être assis, on apprend qu'on n'a plus que pour 6 mois, on n'apprend que plus pour 3 mois à vivre. Et je pense que cela explique son comportement du début, qui est un comportement finalement assez passif, politiquement et autres. Ouais. Et puis, en 83, il a pu penser, commence à voir, mais enfin, Diversing, on laissait penser qu'il avait compris qu'il avait encore du temps à vivre et que par conséquent, il fallait durer. Et c'est là où les héritiers du gaullisme, il faut bien dire, ou du moins qui se prétendaient tels, lui ont offert sur un plateau le moyen de continuer et de surcroît de pervertir les institutions de la Cinquième dans ce qu'elles avaient d'essentiel, c'est-à-dire la prééminence présidentielle, en théorisant, c'est Balladur qui l'a fait, la cohabitation, bien entendu, Mitterrand s'en est saisi. La cohabitation lui permettait de durer, lui permettait de réduire ses adversaires en les mettant dans une situation inférieure à lui, et d'altérer profondément la prééminence présidentielle. Et je pense que ça a été la première étape majeure dans la désagrégation de l'esprit des institutions de la Cinquième.
Alors, vous-même qui avez une connaissance parfaite de ces institutions et des mécanismes qui les,
bon, ils sont très simples.
Qui les dirigent, comment expliquez-vous que cette paille dans l'acier se soit introduite dès le départ, qui rendait la cohabitation possible? Parce que à l'origine, c'était exclu.
Une règle juridique. Vous faites un contrat de mariage le meilleur possible, ça n'empêchera pas un éventuel divorce, ou ça n'empêchera pas que les époux ne s'aiment plus, ou ça n'empêchera pas... la règle juridique, comme la règle institutionnelle, en est une, c'est une règle d'ordre. Ça pose des règles qui permettent l'exercice de quelque chose ou la dissolution de quelque chose. Mais ça n'est pas quelque chose... Dans cette règle, il faut un esprit. Le général l'a dit lui-même, les meilleures institutions du monde ne peuvent pas suppléer la faiblesse des hommes. La citation n'est pas exacte, mais c'en est l'esprit en tout cas. Et je crois que c'est très exactement cela. Et quand on cherche maintenant à corriger... Bien entendu, il ne fallait pas cohabiter.
Alors on a juste... Qu'est-ce qu'il fallait faire alors?
Ben, tout simplement, il fallait dire non. Est-ce que vous imaginez une seconde que François Mitterrand aurait cohabité avec Valéry Giscard d'Estaing? Évidemment non. Il aurait censuré le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à ce que Valéry Giscard d'Estaing soit obligé de faire une élection présidentielle, un référendum ou d'en appeler au peuple. Si j'ose m'exprimer ainsi, dans les rapports politiques, c'est comme dans les rapports humains. Je pense que les hommes qui sont autour de cette table savent que lorsqu'une femme ne veut pas, elle ne veut pas, point.
Bon, encore qu'on dise qu'une femme qui dit non, elle dit peut-être.
Oui, d'accord, peut-être.
Une femme qui dit peut-être, dit oui.
Non, mais quand c'est non, c'est non. Hein. Et je crois que ça se sent tout de suite. Par conséquent, si Mitterrand avait senti qu'on ne cohabiterait pas, qu'on n'accepterait pas de gouverner sous sa présidence, il aurait été obligé de partir. Seulement, à partir du moment où la théorisation venait de Balladur, qui avait quand même été très proche de Pompidou, et Balladur ne l'a certainement pas fait méchamment, simplement c'est un système qui correspond à son tempérament, à sa psychologie.
Oui, bon. Vous faites une rapide incursion, je dirais, sur la personnalité de
Balladur. Enfin, elle est très claire.
De Balladur, c'est très étonnant.
C'est quelqu'un qui refuse l'affrontement. Il ne supporte pas l'affrontement. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui s'est vu lorsque Seguin engageait la bataille contre lui en 1980.
Il
ne supporte pas l'affrontement. Il ne supporte pas psychologiquement. Alors, Mitterrand s'est dit, c'est formidable, on lui a offert tout ça. On lui a offert la clé sur un plateau. Bien entendu, il l'a saisi. Mais je suis convaincu, et il l'avait prévu cela avant, dès 83, il a eu 3 ans pour préparer cela. Et bien entendu, il a fait tout ce qu'il a fallu, il a monté les uns contre les autres. Moi, j'ai entendu à cette époque tout le temps que si Chirac n'y allait pas, c'est Giscard qui serait Premier ministre. À mon avis, il ne faut pas avoir une once de psychologie pour penser que Giscard aurait accepté d'être Premier ministre sous Mitterrand. C'est pas possible, c'est pas vrai, il est beaucoup trop vaniteux pour cela, en dehors du reste. Bon, il est trop intelligent de surcroît. Mais
il a fait, il a laissé croire lui-même qu'il irait pour entraîner Chirac dans cette voie en se disant que si Chirac cohabitait, il serait définitivement éliminé. Bon, ça saute aux yeux, enfin c'est l'évidence même. Mmh. Voilà. Et c'est ainsi que les choses ont commencé.
C'est ainsi que Chirac connaît une terrible vengeance quelques années plus tard en organisant une cohabitation qu'il domine cette fois, avec Jospin comme...
Il n'a rien dominé du tout. La cohabitation, on ne peut pas dominer dans la cohabitation. La cohabitation, c'est le non-pouvoir. Mmh. C'est le non-pouvoir. On nous a bassinés en nous disant que ça permettait l'alternance. Moi, je dis, non, ça exclut l'alternance. L'alternance, c'est un pouvoir, une ligne qui succède à une autre. Et quand on mélange les deux, il n'y a plus de pouvoir.
Le président en est réduit à des artifices, à des faux-semblants, à des expédients.
Et le Premier ministre aussi.
Il refuse de signer, par exemple, on voit...
Ah oui, mais c'est pas d'artifice, il a nettement pris le dessus sur le Premier ministre.
Oui, bien sûr, mais en même temps, on sent que c'est assez misérable. Enfin,
écoutez, c'est peut-être assez misérable, mais ça a quand même mis Chirac dans la position que l'on connaît, c'est-à-dire dans une position d'infériorité. Il y en a un qui est président et l'autre qui ne l'est pas, point.
Ah, mais vous racontez le voyage à Tokyo, je crois. Hein.
Oui, mais ça, tout le monde l'a vu.
Oui, on l'a vu, bien sûr, mais vous le rappelez, parce qu'on a la mémoire courte, comme disait quelqu'un que vous connaissez. Je dois dire que moi, j'avais...
Jacques Chirac a voulu, justement, être présent dans les réunions internationales, il n'a pas fait très attention à l'organisation et il s'est trouvé dans la position du ministre des Affaires étrangères.
Ce qui est amusant, c'est qu'après ça se répète avec Jospin. Jospin fait la même chose.
La cohabitation est un système dramatique, d'abord pour les institutions, mais surtout pour le pays, car personne ne gouverne.
Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter, ça ?
Bien sûr. Bien sûr.
Oui, alors je vous ai déjà posé la question, mais je reviens parce que vous dites qu'il faut dire non. Mais...
Bon, écoutez, c'est très simple. Prenons ce cas. Mitterrand, la gauche est battue aux élections de 86. Bon, que peut faire Mitterrand ? Il peut d'abord prendre un Premier ministre qui soit hors du Parlement et attendre que le Parlement censure ce Premier ministre. Si le Parlement ne censure pas ce Premier ministre, il peut continuer à gouverner. Si le Parlement censure ce Premier ministre, et ça c'est le rôle de ceux qui viennent d'avoir la majorité au Parlement, s'ils sont capables de censurer le Premier ministre, le Président de la République est obligé de renvoyer l'arbitrage au pays. Il est bien obligé de faire soit une élection législative, soit une élection présidentielle, de remettre son mandat en jeu. Donc de toute manière, la crise se résout ainsi. Alors que en acceptant de gouverner avec le président, bien entendu, on évite ce que l'on appelle la crise, mais on en crée une larvée. Il est normal, dans ce pays, il y a un conflit entre ce qu'a dit le pays en élisant les députés et ce qu'il avait dit en élisant le président. Eh bien, il faut qu'il juge quelle ligne il veut choisir. C'est d'une simplicité biblique.
Est-ce qu'il ne faut pas dire à un moment que c'est aussi la volonté manifeste des électeurs qui envoient un président rose...
C'est ce que je vous dis.
À l'Élysée, et qui s'empresse de lui mettre dans les jambes.
Attendez, ça dépend quel sens a l'élection. Parce que ça peut être aussi sur des problèmes, disons, techniques. Il faut que ça soit une vraie opposition sur la ligne politique. Mmh. Et pour le savoir, ben, il n'y a pas 36 solutions. C'est ou de faire de nouvelles élections, ou simplement de mettre son mandat en jeu. Vous m'avez élu. Est-ce que véritablement là, en élisant une autre majorité à l'Assemblée, vous revenez sur la position...
Je cherche à vous neutraliser parce que je pense que vous êtes aussi nocif que votre opposition.
Eh bien, dans ce cas-là, vous allez le dire. Vous allez le dire. Je mets mon mandat en jeu et nous votons.
Ça pose effectivement la question de la qualité des hommes.
Mais bien entendu. Mais encore une fois, la faiblesse est imparable de point de manière institutionnelle. Lorsque les institutions sont un alibi à la faiblesse, elles sont dégradées. Mais ces institutions de la cinquième, elles permettent de gouverner. Bon, elles permettent de gouverner à quelqu'un qui le veut. Les modifications que l'on veut faire en ce moment, par exemple, donner davantage de pouvoir au Parlement, ce qui est quand même assez farce, lorsque les députés hésitent entre voter la censure et se promener dans les couloirs. Bon, parce qu'ils ont tout de même un pouvoir politique que de voter la censure. Ils votent ou ils soutiennent.
Oui.
Bon, s'ils ne font ni l'un ni l'autre, c'est pas la peine de leur donner des pouvoirs supplémentaires. Ils n'exercent pas ce qu'ils ont. Mais à supposer qu'on leur donne des pouvoirs supplémentaires, ça veut dire, en fait, de choisir le Premier ministre. Parce que c'est ça, d'ailleurs, c'est ce qui se passe depuis la cohabitation. Bon, eh bien, il est évident qu'on est dans une situation qui est très mauvaise pour le pays, parce qu'en fait, c'est un gouvernement bicéphale. Et ce gouvernement bicéphale peut être, d'ailleurs, en désaccord, même avec le quinquennat. C'est dans n'importe quelle entreprise commerciale ou industrielle, on ne peut pas conduire l'entreprise si le président et le directeur général sont en désaccord. C'est impossible. Pourquoi veut-on que ce soit possible pour le pays ? ça ne l'est pas.
Votre livre n'est pas un livre d'actualité. Il ne pose pas les questions de l'actualité immédiate.
Quand même, bien sûr.
Il est complètement...
Si vous voulez, j'ai voulu moi-même me rappeler à quel point on a évolué depuis 50 ans, ce qui est quand même très très court, ou même depuis... Depuis 40 ans, 35 ans. Bon. Et c'est cela qui est intéressant, parce que, comme toujours, on est dans une situation très très difficile. Je l'ai dit 20 fois, l'Europe n'est plus au centre du monde, la France n'est plus au centre de l'Europe. Les évolutions sociales, démographiques, politiques que nous avons subies sont majeures. C'est peut-être la période la plus voisine, d'une certaine manière, c'est le haut Moyen-Âge et non pas la Révolution française. C'est-à-dire une mutation vraiment très importante. Continentale. Bon, les décisions sont difficiles à prendre, on comprend très bien que les hommes qui gouvernent hésitent et doutent, bien entendu. Mais ça n'est pas en parcellisant le pouvoir qu'on leur permettra de le résoudre. Pas plus qu'en se ruant dans une Europe dont on ne regarde pas les contours, simplement en disant, eh bien écoutez, si on ne sait pas faire, l'Europe le fera. Rien ne peut remplacer la volonté des hommes. Et au moins, ces institutions, même si elles sont inhabitées, si je puis dire en ce moment, elles permettraient de gouverner. Si on revient à des régimes comme ceux de la 3e ou de la 4e, eh bien, à supposer qu'il y ait des hommes qui veuillent ou voudraient, il faudra de nouveau qu'ils se redonnent les moyens de pouvoir l'exercer.
Quand je disais que votre livre n'est pas un livre d'actualité, je voulais dire la chose suivante, je voulais pas dire du tout que c'est pas un livre qui intéresse l'actualité, parce qu'il est vraiment, il apporte un éclairage formidable qui vient de très loin sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'était pour préparer la question que je vous posais, et je sais que vous ne voulez pas être engagé dans le débat actuel directement, mais quand même.
L'obstination est parfaite.
Est-ce que vous ne croyez pas que ce qu'on voit aujourd'hui, on a vu hier l'Assemblée acclamer un ministre alors qu'elle venait d'ignorer le Premier ministre. On voit le ministre de l'Intérieur critiquer ouvertement une décision du président de la République.
L'amnistie de Guidru.
On voit le président de l'Assemblée nationale, qui est un des supporters les plus inconditionnels du président de la République, nous dit-on, lui-même dire que... bon.
Non pas inconditionnel, la preuve.
Voilà, alors c'est... Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, en fait, c'est ça le fruit de la Ve République,
non,
quand elle est entre les mains d'hommes qui ne sont pas à la hauteur de quelque fonction que ce soit.
C'est aussi le fruit de toutes les républiques quand les hommes ne sont pas à la hauteur, car ce qu'ils recevaient les tomates. Bon, on n'en est pas encore à lancer des tomates sur nos premiers ministres.
Je pense que
ça va
pas tarder.
C'est quand même ce qui s'est passé quelques années avant la Ve République.
On a oublié
à quel point la désagrégation était totale dans les années 30, ou à quel point la désagrégation était totale en 1958. Enfin, moi, il se trouve que dans ma longue vie maintenant, j'ai connu les deux personnes qui étaient partenaires dans le financement de la France avant 58. Monsieur Pleskov allait chercher l'argent à Washington et c'est Monsieur Volcker qui le lui donnait pour payer les fonctionnaires. C'était quand même en 58.
La République bananière ne date pas d'aujourd'hui.
Non, c'est pas bananière, on n'avait pas d'argent.
Non, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est nous qui payons les salaires des fonctionnaires africains. À l'époque, les Américains qui payaient les fonctionnaires français.
Les Américains nous aidaient à faire les fins de mois. Bon, et quand même, on voit bien ce que ces institutions ont permis de faire. C'était dans quelques semaines. Bon, la situation économique n'était pas là, mais le pouvoir était rétabli parce que, et c'est le deuxième élément important, et que permettent ces institutions, elles permettent à celui qui gouverne de choisir un terrain tel pour le pays que ce pays compte, que ce pays soit singulier, que ce pays présente un intérêt, ou disons-le, un risque. D'ailleurs, l'intérêt et le risque, ça va ensemble, pour les autres. Autrement dit, qu'on soit obligé de tenir compte de son avis. Mais tous les pays qui ne sont pas les plus grands le font. Qu'est-ce que fait Israël? Qu'est-ce que fait la Corée? Qu'est-ce qu'a fait le Japon? Quand on nous raconte qu'on est un centième et que par conséquent, on ne peut rien faire, mais il y a des tas de gens qui sont moins d'un centième, des tas de pays qui sont moins d'un centième et qui comptent. Le Japon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous rendez compte quelle situation? Et le Japon est maintenant un partenaire important dans le jeu international. Ne parlons pas de la Corée. La Corée du Sud, il n'y avait rien, rien. À la fin de la guerre, il n'y aurait rien, ce qui s'appelle rien. Bon, tout était en Corée du Nord. Et on voit maintenant la Corée, qui est le premier pays mondial en matière d'électronique, ou à peu près. Et moi, je cite cet exemple parce qu'il m'a frappé. Les trois championnes de patinage de vitesse sur glace sont coréennes du Sud. C'est quand même pas un sport qui est courant en Corée du Sud.
Non,
bon, ils ont décidé qu'ils auraient une victoire dans cette discipline. Et ils l'ont eu. Bon, eh bien, je crois que c'est ce que permettent les institutions de la 5e. De Gaulle a décidé que la France serait une puissance nucléaire en 58, et on a été assis à la table des grands. Ça faisait peut-être pas plaisir à tous les grands, mais on y était.
Oui. Une question que je ne peux pas ne pas vous poser, c'est celle de votre candidature de 80. Vous avez fait en 80 une candidature qui pouvait être une candidature, on pouvait le considérer comme une candidature de témoignage.
Absolument, oui.
Et puis qu'est-ce qui vous a...
J'aime pas ce mot parce qu'on est candidat. On est candidat.
Oui, enfin, j'entends bien. Très bien, on a bien compris ce que vous vouliez dire à cette époque-là. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous interdit de recommencer aujourd'hui?
Écoutez, non bis in idem, comme dirait Foyer.
Les auditeurs vous plébiscitent. Il y en a plusieurs qui disent si elles se présentent, on vote pour elles.
Ils sont bien capricieux, les auditeurs, parce qu'il y a quelques semaines, on recevait un gaulliste pas tellement plus grave que vous, comme diraient les jeunes, Yves Guénard. On a reçu une avalanche de messages d'insultes.
Oui, mais maintenant, c'est très intéressant, ça.
Ils vous écoutent, il y a quelques messages qui arrivent et ils sont favorables. Alors, je suppose qu'ils vous écoutent tous bouche bée. Vous êtes notre Ségolène, peut-être bien. Impériale,
si
voilà.
Si c'est un compliment, il est raté à mon
Marie-France impériale.
Non, non, je passe mon temps à expliquer que le vice de l'Europe que nous construit, c'est une structure impériale, alors que nous sommes un pays de royauté et que les deux structures sont incompatibles.
Là, on sent quand même l'influence de Foyer. Non, vous avez gardé
Mais bien sûr. Enfin, écoutez, Foyer, je crois qu'il a été l'élève de mon beau-père, et moi, j'ai été son étudiante, et à l'époque, les facultés comme celle de la faculté de droit de Poitiers, c'était encore ce qui est, je crois, très bonne chose dans l'enseignement universitaire, les grandes universités dans les petites villes. D'ailleurs, je crois que un des problèmes qui se posent chez nos dirigeants actuels, c'est qu'ils sortent moins de l'université que des grandes écoles. Et ça, il me semble que c'est probablement chez eux peut-être une lacune. Parce que l'université, c'est pas du tout une grande école. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tumultueux d'ailleurs. C'est pas la même attitude intellectuelle du tout. Elle est plus ouverte, plus contestataire d'ailleurs en général, plus romante, moins monodirectionnelle que le sont les grandes écoles. Et si vous regardez les hommes qui sont au gouvernement, et dans les affaires d'ailleurs, puisque maintenant pratiquement ce sont les mêmes, ils sortent presque tous des grandes écoles, Polytechnique, l'ENA, HEC, etc.
Voilà, moi je conseille de lire votre livre parce que, comme je l'ai dit, il apporte un éclairage extraordinaire sur la situation actuelle, et un éclairage qui vient de loin et qui est alimenté au réservoir de l'expérience.
Je vois que vous avez de bonnes lectures avec le canard.
Oui,
alors ça c'est rédigé dans les ministères. Alors on
qui m'a fait une méchanceté. Qui m'a fait une méchanceté.
Vous reproche de donner des leçons alors que vous avez fait un score.
J'ai fait le score. D'ailleurs, si à l'époque, passons.
Oui, mais je pense pas que vous ayez eu à l'époque l'ambition de.
Non, et j'ai pas eu non plus un soutien extraordinaire du RPR.
On peut dire ça. Oui.
Mais puis on peut pas demander à un garagiste de gagner des courses de voitures. C'est pas tout à fait le même métier.
Pourquoi je suis garagiste?
Non, je crois que vous élevez des chevaux. Vous élevez des chevaux. Non,
mais ce que je voulais dire, c'est que je relève ça parce que je me suis efforcée dans ce livre, puisque vous en parlez justement. D'ailleurs, je n'ai aucune animosité personnelle vers Chirac. Aucune. Nous avons des accords politiques depuis 30 ans. Mais je n'en ai aucune. Simplement, je suis obligée de constater qu'il a participé à cette dérive. Et je crois d'ailleurs, sans en être conscient au moins au début, je crois que la malice de François Mitterrand avait été de l'orienter, de le diriger dans une ligne qu'il avait dessinée et que Jacques Chirac ne s'est pas rendu compte au début où cette ligne le menait. Or, c'était parfaitement délibéré, puisque quand il a été élu, François Mitterrand l'avait amené à prendre position sur le régime parlementaire et sur l'Europe. C'est-à-dire exactement 30 ans après, puisqu'on parle des anniversaires, les thèmes qui étaient soutenus par les adversaires de Gaulle en 1965. C'était proprement luciférien. Alors, Jacques Chirac ne s'en est pas rendu compte, mais il n'avait pas de pensée ni vile ni méprisable. Et moi, ce qui me gêne en ce moment dans la situation actuelle, c'est que ce livre qui a été écrit avant les événements actuels, je ne voudrais pas être de ceux qui jettent des cailloux sur telle ou telle circonstance. Je l'ai dit, bon, aux échecs, ce ne serait pas comme ça. Il est là au moment où on est échec et mat, mais les erreurs ont été commises beaucoup plus tôt.
C'est la fête des fous chez Plon, si je vois bien. Voilà. On peut donner aux auditeurs qui plébiscitent Madame Garraud, qui aime son ramage, on peut leur donner le conseil de venir à la fête de Radio Courtoisie le 11 juin, puisqu'ils verront son plumage au stand de Serge de Beketch.
Vous serez parmi nous le 11 juin, c'est très gentil. Donc on pourra à ce moment-là vous voir, on pourra même peut-être vous parler.
Peut-être.
Si vous avez le temps, entre deux signatures de dédicace de... de vous entretenir avec les auditeurs. Ils seront contents de poser leurs questions.
Car merci de votre accueil.
Car nous n'avons plus le temps maintenant.
Pensez-vous, Madame Garot, que Philippe de Villiers a les capacités d'un homme d'État?
Écoutez, je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit. Je n'ai pas les qualités nécessaires pour décerner des brevets d'homme d'État à qui que ce soit.
Et Morales, et moi. Allez, allez, secouez-vous.
Merci, Madame Garot. Et puis alors, dimanche 11 juin, à l'espace Charenton, rue de...
232 rue de Charenton.
Pas à Charenton.
Métro Porte de Charenton. Ce sera la fête des fous, là aussi, ma parole, avec tous ces Charentons.
Oui, ça sera une forme de fête des fous. Eh bien, nous changeons maintenant de sujet. Nous changeons de... On va parler d'un grand bonhomme avec Elisabeth Escal. C'est-à-dire du commandant Guillaume, qu'on a appelé le crabe tambour. Il aimait pas trop ce surnom, je crois. Hein.
Non.
Il préférait qu'on l'appelle le commandant Guillaume, tout simplement. Vous avez été sa collaboratrice dans l'émission qu'il faisait sur Radio Courtoisie pendant 8 ans et demi, on l'a dit tout à l'heure. Moi, je l'ai finalement assez peu connu, on le voyait de temps en temps, je l'ai vu à Riomont 2 ou 3 fois. Et si vous deviez le définir en très peu de mots, qu'est-ce que vous diriez de lui?
C'était un homme droit, qui aimait la France et les Français, qui voulait défendre les valeurs par l'épée s'il le fallait.
Il a commencé très tôt hein, à défendre les valeurs traditionnelles de la France.
C'est un homme très ouvert.
Il a été un vrai héros. Alors on peut employer le mot. Dans son cas, c'est tout à fait justifié en Indochine. Mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur ses motifs et les questions auxquelles répond le livre d'ailleurs. Alors ce livre, c'est un livre d'entretien avec vous. Ça a été tiré d'entretien ou...
Exactement.
Ou de lettres ou de...
Non, je l'avais décidé à écrire ses mémoires parce que je trouvais que c'était vraiment important de les transcrire de façon à ce que d'autres puissent les lire.
Et quelle était sa réaction quand vous lui disiez qu'il faut écrire vos mémoires?
Non, au départ, il ne voulait pas. Il disait non, ça n'intéressera personne. C'est pas la peine, c'est pas intéressant. Ce sont des histoires de guerre. Et puis je l'ai convaincu de me raconter toutes ces histoires. Et donc, j'orientais un petit peu les sujets. Je faisais un petit peu le Candide aussi, de façon à expliquer certains points plutôt que d'autres, à décrire certains combats plutôt que... Et donc nous avons enregistré des cassettes, et puis après transcrit cela, puis après ajouter au fur et à mesure des compléments.
Il a une carrière étrange parce que d'abord il devient officier de marine. Pourquoi il fait naval plutôt que Saint-Cyr? Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Oui, bah écoutez, il est né à Saint-Servan, en face de Saint-Malo, et il a toujours été attiré par la mer, et il le dit bien dans ses mémoires, et comme il le sera plus tard par le désert. Soit en Somalie, soit en Arabie Saoudite plus tard. Et c'est dans les grandes étendues que les anciens ont découvert le monothéisme d'ailleurs. Et l'immensité de la mer, comme du désert, l'attirait. Car il se rapprochait de Dieu. Il suivait son étoile et en observant la voûte céleste, tant en mer qu'en dans le désert. Et d'ailleurs, j'ai pu lire un conte qu'il avait écrit intitulé Le chevalier et l'étoile. Et justement, à ce propos, je voudrais en profiter pour préciser un point. Dans la conclusion de ses mémoires, la paraphrase de Montaigne que Pierre Guillaume aimait beaucoup, et parce que c'était eux, parce que c'était elle, parce que c'était moi, et souvent on m'a demandé ce que signifiait le elle. Eh bien, c'est l'étoile qu'il a toujours guidée et protégée tout au long de sa vie, une référence à l'immortalité de l'âme.
Le Petit Prince aussi, ça fait penser.
Voilà. Il était très rêveur aussi.
Chez cet homme, effectivement, chez cet homme qui était un immense gaillard. Costaud comme un bœuf et puis comme un marin en plus, il y avait une espèce de fragilité de Petit Prince, et notamment dans son regard. Chaque fois que j'ai croisé son regard, j'ai vu cette espèce de
très bleu.
De ce regard bleu, il y avait quelque chose d'irréel dedans. On voyait qu'il était ailleurs en permanence.
Voilà, hein, ouais. s'approchait.
Alors, il fait naval. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse Saint-Cyr, mais enfin, naval, c'est bien aussi, il faut bien reconnaître.
Son frère faisait Saint-Cyr en même temps.
C'est ça, il pensait prendre le pouvoir sur toute l'armée française, eux deux. Hein. Et quand son frère se fait tuer en Algérie, là, il quitte la royale.
Oui, il demande à quitter l'armée de mer pour l'armée de terre,
ouais,
de façon à le remplacer, parce qu'il a été très touché par la mort de son frère au combat le 22 mars 1957. Et son frère, donc lieutenant de parachutistes coloniaux, commandait un commando à titre expérimental, chargé d'observer les mouvements des rebelles dans les zones peu contrôlées et d'intercepter les Felagas qu'ils rencontraient. Et donc le lieutenant de vaisseau Guillaume a décidé de continuer la mission qui avait été confiée à son frère. Et c'est ainsi qu'il a pu changer d'arme, ce qui est un fait assez exceptionnel, on peut le reconnaître. Mais il y avait certains appuis avec le général Salan, que son père connaissait très bien, et puis l'amiral Rosset, qu'il avait vu en Indochine. Donc cela a facilité le changement d'arme, parce qu'il y a eu une décision ministérielle pour ce fait.
Mais en dehors de ça, il n'avait aucun lien avec l'Algérie. En dehors du fait qu'il s'est battu comme un soldat.
Son frère n'avait pas été tué en Algérie.
Qu'est-ce qui explique son engagement dans le...
Parce qu'il voulait continuer la mission.
Dans la défense de l'Algérie française.
La mission de son frère. La mission du commando, en fait, c'était surtout, en 1957-58, c'était surtout de pacifier certaines régions qui étaient peu contrôlées et de permettre aux populations vivant dans les Édouards de ne plus être inquiétées par les bandes FLN qui les rançonnaient et les autorisaient souvent. Et dans la mesure où la France, quand elle a débarqué en Afrique du Nord... quand elle entendait civiliser un pays, faire évoluer la culture, surtout le délivrer des Turcs, bien...
Qui s'en occupait pas beaucoup, je vous rassure. Hein,
oui. C'était... Et le libérer, dans ce sens, le lieutenant de Guillaume a défendu l'Algérie française, par respect pour la parole donnée et le fait de défendre une terre française. C'était toujours ça, protéger la population d'une part, et la défendre des exactions du FLN.
À propos des rapports entre la Turquie, l'Algérie et la France, il vient de se passer un événement qui a été assez peu souligné, je crois, dans la presse française, c'est que le fameux traité d'amitié que Chirac voulait signer avec Bouteflika, finalement Bouteflika l'a signé avec la Turquie. C'est intéressant, je trouve, comme comportement. Mais c'est curieux qu'il n'aille pas se faire soigner dans un hôpital à Istanbul.
Oui. Je sais que le fait que l'on ait rendu les drapeaux turcs pris à l'épante avait horrifié le temps vaisseau Guillaume à l'époque. Ouais. On avait parlé ici.
Comment voyait-il la situation actuelle ? Est-ce qu'il était... Il était désespéré, il était inquiet, il était...
Il espérait que les Français se...
Il croyait dans un sursaut possible. Madame Garraud, je reviens vers vous. Est-ce que vous croyez un sursaut possible des Français en ce moment ?
Les Français ont toujours eu le sursaut. Ce qui me paraît grave en ce moment, pardonnez-moi, on va dire que je suis monomaniaque, c'est cette affaire européenne. Autant je considère que c'est absolument indispensable qu'il y ait des liens étroits qui se nouent entre les États européens, autant je crains que la manière dont nos dirigeants se dirigent vers l'Europe, elle est très dangereuse. Il est arrivé dans notre histoire que le pouvoir tombe par terre, si j'ose dire, qu'il soit totalement à l'abandon. C'est arrivé, on n'énuméra pas depuis la guerre de 100 ans jusqu'à maintenant. Mais là, pour la première fois, nous remettons les pouvoirs d'État et nous le remettons à quelque chose qui n'existe pas. Bon, s'il y avait vraiment une construction politique fédérale ou impériale, je dis impériale parce que la structure de l'Europe est plus proche d'une structure impériale, c'est-à-dire différenciée, que d'une structure fédérale, c'est-à-dire égalitaire. S'il y avait un vrai pouvoir politique, une vraie réalité politique, je n'en serais point satisfaite parce qu'il me déplairait d'être que la France soit une province ou une région d'un empire. Mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de réalité politique et on ne voit pas à court terme, même à moyen terme, comment il peut y en avoir une. S'il y en a une, elle sera vraisemblablement en effet de nature impériale et probablement autour de l'Allemagne et de la Russie. Mais en attendant, les pouvoirs d'État que nous remettons aux autorités européennes, nous les remettons à la Commission et à la Cour de justice. Bon, par conséquent, ils tombent dans le trou noir du néant politique européen. De sorte que si même quelqu'un voulait en ce moment reprendre les rênes du pays, en parfaite concertation avec nos voisins, ils ne disposent pas actuellement des moyens de le faire. Il faudrait d'abord qu'il reprenne une partie des pouvoirs que nous avons donnés. Ce qui quand même pose quelques difficultés pour ne pas... Forcément, un jour, cette structure s'éparpillera parce qu'il faudra bien faire quelque chose. Ou alors c'est le néant européen. Mais là, il y a un vrai problème, à mon avis, qui pèse sur l'éventuel sursaut dont on parle toujours en ce qui concerne la France et les Français. Ce sursaut doit être, devra être plus puissant qui ne l'a été, enfin pas plus puissant qu'en 40 ou en 58, ou même à d'autres moments. Après Isabeau de Bavière, on avait eu besoin aussi d'un petit sursaut. Bon, mais là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et je crois que nos dirigeants, qui sont, on les conçoit un peu effrayés par l'ampleur des défis qui se posent, ça les soulage de confier à l'Europe des responsabilités. Quand on est nombreux à prendre les responsabilités, on en a moins chacun sur les épaules. Et c'est une démarche qui est une démarche classique, je dois dire, dans les débuts de crise, d'ailleurs.
Ouais. En même temps, on s'étonne de voir comment ces gens qui sentent bien que le fardeau est épouvantablement lourd se battent pour occuper les places où ils sont censés supporter le fardeau.
Ah oui, mais il y a tout de même... Justement, parce qu'il serait moins lourd à supporter. Mais c'est une chose qui m'a beaucoup frappée au moment du référendum. Je me suis dit, mais comment se fait-il que des gens qui évidemment sont attirés par le pouvoir acceptent une démarche qui le désagrège au moment où ils convoitent? Et quelqu'un que je n'aimerais pas, mais qui est quelqu'un de connu et qui penserait bien, m'a dit, parce qu'ils le veulent à leur taille.
C'est ça, oui, c'est l'impression que ça donne.
Il y a quelque chose de vrai. Encore une fois, c'est pas forcément péjoratif. La période est terrible, mais je cite un cas pour voir à quel point... Bon, vous savez qu'il y a un Conseil européen qui représente les chefs d'État et de gouvernement, et il y a une commission technocratique et une cour de justice qui est l'instance supérieure. Bon, eh bien, la commission a pris une décision récemment que le Conseil européen a décidé de contester, c'est-à-dire l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement a décidé de contester et a porté devant la cour de justice européenne. Juridiction... tirant des décisions insusceptibles de recours. Eh bien, la Cour de justice européenne a donné raison à la Commission contre le Conseil européen.
Je voudrais reposer la question de Serge autrement, moi, pour de façon aussi à comprendre pourquoi Pierre Guillaume a été un petit peu escamoté d'un seul coup. Est-ce que vous pensez que la France a encore besoin de héros comme celui dont nous avons cessé de parler il y a 5 minutes?
Mais je suis sûr que c'est la force de la France. La France n'a peut-être pas une conscience de peuple, mais elle a toujours engendré des héros, des aventuriers, des gens qui osent tout, et il y en a encore, certainement.
Et rappelez-vous qu'il disait en 2002 la phrase suivante, que l'âme des morts réveille les guerriers endormis. Justement, parlons de ce sursaut.
Oui, effectivement, c'est une phrase qui est totalement conforme à la civilisation française, mais la question qui se pose, c'est de savoir si on est encore dans le contexte d'une civilisation française. C'est ça. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, on peut vraiment se poser la question de la réalité de la survie d'une civilisation et d'une culture française. Moi, je sais pas, c'est l'impression que...
C'est l'impression que...
Ce qu'il a toujours dit, c'est que ce que Dieu a permis d'acquérir par les armes doit être défendu par les armes. Et ça, c'était le respect de ce qui devait être défendu, parce que ça avait été conquis grâce à Dieu.
Donc, quand il a accepté d'écrire ses mémoires, finalement, est-ce qu'il a été convaincu simplement qu'il fallait raconter sa vie ou que ça pouvait être porteur de...
Oui, de nombreuses personnes lui demandaient, alors quand les mémoires vont-elles sortir, et justement, il était intéressé par savoir tout ce qui lui était arrivé, et il pensait que transmettre justement un sentiment que d'autres se mettent à armes aussi.
Vous avez des témoignages de jeunes gens qui ont lu son livre depuis qu'il est paru, enfin qui ont lu ce livre.
Oui, qui ont été absolument ravis.
Et qui réagissent comment?
Très contents de savoir tout cela, et au contraire, ça leur donne envie de se battre à leur tour pour défendre leur pays. Et vont-ils pouvoir le faire?
Bonne question. Merci Elisabeth Escal. Alors ce livre s'appelle Pierre Guillaume, mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon honneur à moi. Et ce sont des mémoires, mais des mémoires conversées en quelque sorte.
C'est
une œuvre à quatre mains, comme on fait des pièces de piano à quatre mains. Et il y a une très très belle photographie.
Sur le Pierre Guillaume, pays, en Indochine,
en couverture, parce qu'il y a à la fois la sérénité, la force, le sourire, et puis c'est vraiment un portrait qui lui ressemble d'une façon très étonnante. Il était tout jeune, c'est en Indo.
En 1950, il avait 25 ans.
Merci beaucoup. On vous retrouve. Oui, des questions.
J'ai pas une question, non, j'ai un commentaire. Guillaume s'est impliqué dans l'affaire algérienne parce qu'il avait déjà évacué les Français de Shanghai devant Mao, non ?
En 49, oui.
Et les catholiques du Tonkin, après Dien Bien Phu, il ne voulait pas avoir à recommencer en Algérie. C'est Jean de Sélas.
Là, il pensait que...
Et puis, j'ai une question précise sur un détail. Madame Escal, pourrait-elle nous donner les références du générique de l'émission du commandant Guillaume ? Cette musique faite du temps de Turenne est magnifique.
Oui, la marche de Turenne.
L'auditeur va parler de l'indicatif.
Oui, ouais. Alors, oui, c'est ça. La marche de Turenne.
La marche de Turenne. C'est des.
C'est
des.
Cet extrait, oui.
C'est un disque des. Du cœur bonjour. Non ?
Oui, je pense.
Il me semble bien.
Oui.
Donc vous serez le 11 aussi avec nous pour présenter ce livre, le signer, et puis vous entretenir avec les auditeurs qui voudront venir vous voir. Et...
À l'espace Charenton.
Je veux dire que je suis très émue d'être là ce soir, parce que la dernière fois que j'étais là, c'était toujours avec, après son enterrement. Oui. Non, c'est le dernier libre journal que j'ai dirigé.
Ah oui, c'est absolument ça, quelques jours après sa disparition. Merci Elisabeth, à bientôt.
Pierre Guillaume était un être différent. Et c'est pour cela qu'il était jalousé, aimé ou haï.
C'est bien, il vaut mieux excès d'ennemis qu'un excès d'amis. Parce que les excès d'amis, on y perd toujours. Tandis que les excès d'ennemis, on ne peut qu'y gagner. Vous signez, vous, alors, à France Livre, samedi à partir de 15h.
Oui, c'est ça, de 15h à 18h30.
Vous aussi, monsieur Raffard de Brienne, junior.
Tout à fait.
Alors, c'est sympathique et amusant de vous avoir en face de moi, parce que vous êtes quand même une assez bonne copie de votre père, avec quelques années de moins, il faut le préciser, ce qui
oui,
me paraît
quelques années de moins,
pas tant logique, ça, d'ailleurs. Ouais. Il va mieux ?
Il va beaucoup
mieux. Vous savez qu'il nous a fait une farce, celui-là, le père Raffard. Je lui téléphone l'autre jour, et j'avais l'impression d'avoir une locomotive au bout du fil. Je lui dis, mais Daniel, qu'est-ce qui vous arrive ? Il me dit, vous avez couru pour répondre au téléphone ? Il me dit, non, je suis essoufflé comme ça depuis 2 jours. Je lui dis, mon Dieu, il ne faut pas rester dans cet état-là. Appelez immédiatement un médecin, vous avez beaucoup nous manqué. Et une demi-heure plus tard, le SAMU arrivait pour l'embarquer à l'hôpital.
Mardi dernier, il était embarqué par le SAMU avec une embolie pulmonaire, et refusant toute discrimination, il a fait une double embolie sur les deux poumons. Et il a échappé très bien.
Ça a toujours été un centriste convaincu.
Je viens de comprendre pourquoi il est absent du Libre Journal qui vient
il
nous donnait un billet si amusant, si spirituel, et si lapidaire en même temps. Il prenait le temps de faire court.
Mais je peux vous rassurer, je l'ai vu à midi, il a repris la plume et les rubriques papy-grognon devraient tomber.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la meilleure nouvelle, c'est que j'ai eu au téléphone tout à l'heure et qu'effectivement, il a bien récupéré. On lui a donné un fluidifiant, m'a-t-il dit,
c'est
pour
ça,
le sang.
Il a 6 mois de traitement.
J'ai trouvé que le whisky faisait très bien l'affaire, pourtant.
Oui, faudra peut-être avoir une hygiène de vie rigoureuse pendant quelques mois.
Il est quand même assez malade pour que vous lui confisquiez son racket qu'il avait lui-même volé à Volkov, à savoir la désinformation. Je ne vous félicite pas.
J'ai profité de la carence momentanée.
Alors, donc vous publiez la désinformation autour de l'esclavage. Alors, c'est vraiment un sujet d'actualité, puisque que tout le monde ne parle que de l'esclavage en ce moment. C'est encore un sujet supplémentaire de repentance. Je ne sais pas combien de temps on va se repentir de tout le mal qu'on a pu faire à la terre entière. Je pense si la France avait été inventée pour servir de marâtre à l'humanité, je me demande comment on ferait. C'est tout à fait extraordinaire. On est responsable de tout, et notamment de l'esclavage. On est responsable du fait que les Arabes, que les chefs nègres volaient des gens dans les villages et les transportaient jusqu'à la côte. On est responsable du fait que les Arabes les achetaient aux nègres, et on est responsable du fait que d'autres personnes les transportaient dans des bateaux jusqu'en Amérique pour les vendre à des exploitants. C'est ça, en gros, hein ?
Oui, c'est ça. Vous venez parfaitement de résumer.
Je ne sais pas à quel endroit on se situe, mais c'est sûr que c'est de notre faute, de toute façon.
Oui, de toute façon, c'est de notre faute. D'ailleurs, ce livre s'inscrit dans une série qui s'appelle « La désinformation autour d'eux ». Donc, il y a Jésus et Marie, il y aura le croisade, il y a tout un tas de titres. L'éditeur, c'est Atelier Faulfer. Et aujourd'hui, moi, ce sujet, bon, je me suis toujours passionné pour la désinformation depuis de nombreuses années. J'ai lu tous les classiques en la matière.
À commencer par le Volkov.
La plupart des Volkov, bien entendu, les Boncombe, les Villemarest, etc. Enfin, tous les gens qui ont touché à l'autre partie de la politique et du décor. Alors là, l'idée de l'esclavage avait germé en 2001, quand la députée guyanaise Taubira, Christiane Taubira, avait obtenu une loi décrétant l'esclavage crime contre l'humanité. Passons sur le fait que c'est un non-sens juridique, puisque cette loi d'exception sur le génocide voté juste par les vainqueurs après-guerre ne s'applique en aucun cas à ce genre de phénomène. Et en plus, ce qui m'avait intrigué, c'est que dans la législation, dès l'article 1, dès l'article 1er, il est très clair que ça ne concernera que la traite transatlantique, la traite triangulaire. Alors pour résumer, la traite triangulaire, c'est la traite qui concerne effectivement la traite des esclaves par les Européens.
Pendant 200 ans.
Un peu plus de 200 ans, pour laquelle les Portugais ont ouvert le bal, dans laquelle la France, bien sûr, dans laquelle France est engagée, la Grande-Bretagne.
Comme on dit, les Italiens n'ont rien à craindre, pas les poursuivre pour les 700 ans d'esclavage qui sont pratiqués.
Voilà.
À l'époque, on les appelait seulement les Romains.
Oui, on les poursuivra peut-être pour autre chose, parce qu'il y a toujours un quai des esclavons à Venise, qui était la passerelle de transit vers la barbarie de tous ces pauvres blancs européens rasiés dans les Balkans et en Russie, parce que ça, je parle également dans mon livre de la traite des blancs. Les grands oubliés de la repentance, ça traite des blancs également. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'esclavage, j'ai essayé de montrer dans ce livre qui est une synthèse, j'ai essayé de montrer qu'effectivement il y a eu d'autres traites. D'abord que l'esclavage est consubstantiel aux civilisations. Il n'y a pas aujourd'hui une civilisation qui se soit bâtie sans esclavage. Bon, qu'on le veuille ou non, c'est certainement regrettable, mais c'est un fait historique. Et ce livre tente à montrer qu'effectivement, il y a eu des traites encore plus importantes numériquement. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu déplacé de parler de chiffres dans la misère humaine, mais à un moment, il faut aussi parler de chiffres. Par exemple, les traites internes africaines, donc des Africains vers les Africains, sur le continent africain, ont fait 14 millions de victimes. Hein. Les traites arabo-musulmanes, dites aussi orientales, donc sont à 17 à 18, selon les auteurs, 17 à 18 millions.
Et franchement, quel crédit on peut apporter à ces chiffres? Enfin, ça repose sur quoi?
Alors, ça repose quand même sur des études de plus en plus pointues, de plus en plus fines. Alors, notamment, le grand expert en France avec prix d'histoire du Sénat en 2005, Olivier Petré-Grenouillot, qui est un des plus grands spécialistes européens de l'esclavage, nous donne ce genre de chiffres, confirmés par des auteurs américains. Il y a Robert Davis, il y a effectivement, après il y a Meyassou, il y a Jacques Hers, qui est un grand historien du Moyen-Âge, mais aussi de ces questions-là. Donc aujourd'hui, la recherche se libère un petit peu, et je le dis en introduction de mon livre d'ailleurs, trop longtemps, les historiens savaient, et d'ailleurs j'ai fait quelques citations assez précises, ils connaissaient ces traites, simplement ils l'ont tué.
C'est une bonne objection. Il faut dire que, bien entendu, ces chiffres sont des estimations. On parle de 8 à 12 millions, ce qui fait quand même une fourchette énorme en ce qui concerne la seule traite transatlantique. J'ajoute, c'est le moment, qu'aujourd'hui encore, l'ONU estime la population mondiale des esclaves à 10% de la population. Et ça, c'est quand même chouette pour un historien comme vous, puisque ça nous ramène à la Rome de Trajan, dont Serge s'inquiétait à l'instant.
Alors, je vais rebondir sur l'esclavage actuel aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un chapitre qui est consacré à l'esclavage moderne, actuel, dans le monde. Et il est tombé cette semaine, donc 8 jours après les grandes festivités de repentance, il est tombé un article concernant l'esclavage au Soudan. Aujourd'hui, l'association Christian Solidarity International a récemment, c'est-à-dire en 2006, racheté 2035 esclaves aux esclavagistes musulmans du Soudan. Depuis 1995, cette association a permis de libérer plus de 11 000 esclaves. Oui, c'est aujourd'hui, ça c'est en ce moment. Entre le 8 et le 13 janvier 2006, plus de 1000 femmes et enfants aux esclavagistes ont été rachetés aux esclavagistes musulmans du Soudan, chrétiens et ennemis. Ces malheureux portaient les stigmates de torture infligées, excisions, scarifications, traces de coups et tentatives d'égorgement, coups de fouet, etc. Ça, c'est aujourd'hui. C'est pas il y a deux siècles.
On peut dire un mot de demain, rapidement. Demain, dans un mois en Allemagne, les 40 000 gamines est-européennes qui vont servir de paillasses aux supporters pleins de bière, elles ont la vocation, elles sont volontaires ou ce sont des esclaves?
Alors, sur le volontariat, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je cite notamment le sénateur Dina Dürik, qui a fait au Sénat un rapport d'enquête sur la prostitution africaine en France. Et en fait, elle a été, le dit d'ailleurs, je crois que c'est son mot, horrifiée de ce qu'elle a entendu à travers des auditions. Ces filles qu'on voit dans les rues de Paris, etc., et qui alimentent le commerce du sexe, sont systématiquement pratiquement rasiées, hein, de force, droguées, et leurs enfants sont gardés en otage. Elles sont battues, mises dans des camps de dressage, habituées à toutes les outrances, et ensuite elles arrivent en France. Tout ça est non seulement prouvé, il y a des auteurs, il y a des livres sur le sujet, il y a un rapport du Sénat, tout cela est au vu et au su de tout le monde. Donc quand on fait semblant d'ignorer les traites orientales, effectivement la Coupe du Monde de football, etc., je pense qu'effectivement, c'est ce que je dis un peu en synthèse du livre, si nous devons parler de repentance, allons-y, mais tous ensemble. Et moi je préconise des journées de repentance à Tunis, à Rabat, à Istanbul.
On va faire des tournantes de repentance.
Je pense qu'il faut une tournante au Caire, notamment au Caire, grands esclavagistes devant l'Éternel, le Caire.
Non, ça, lundi, c'est les Allemands qui se repentent, mardi les Français, mercredi
voilà,
les Allemands.
Je pense qu'il faut faire un tour de rôle, tout à fait.
Parce que autrement, c'est nous qui allons tout payer. Je sens ça venir gros comme une maison.
Oui. Et alors, justement, il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle Vers une repentance sonnante et trébuchante, parce qu'effectivement, c'est ce qui nous pend au bout du nez. Il y a des estimations un peu fantaisistes, des collectifs qui commencent à réclamer des sommes précises. Hein. Ça se compte en triards d'euros. Hein. Je cite une source assez importante. Donc aujourd'hui, quand on entend Christiane Taubira nous dire « je ne veux pas d'indemnisation individuelle », on entend par omission qu'il y aura des indemnisations collectives. Donc je pense qu'il faut se préparer, mettre la main à la poche, et ça sera une repentance sonnante et trébuchante.
On pourrait effacer les 200 milliards de dollars que l'Afrique nous doit, par exemple, et qu'elle est sur le point de nous rembourser.
Mais il y a quand même un pays au moins où on ne sera pas obligé de payer. Deux pays, le Nigeria et le Libéria, puisqu'on leur a rendu, on leur a même rendu des esclaves qu'on aurait piqués ailleurs.
Oui, alors effectivement, non seulement on leur rend l'esclave, mais aujourd'hui, alors j'ai pas le document sous les yeux, mais effectivement, quand on parle par exemple du Niger, quand on parle par exemple du Mali, etc., aujourd'hui, on a rouvert des marchés aux esclaves au Mali, publiquement. Hein, ça avait disparu grâce à la colonisation.
C'est pour le tourisme, ça.
Peut-être, mais enfin, la méthode est quand même assez particulière.
Moi, je voudrais savoir la tête de Mendès France quand on va venir lui réclamer le fric de son arrière-grand-père. Il va peut-être pas être très content.
Je crois que c'est ce qu'a fait la tribu K, en chemise noire, les Africains racistes.
On va en parler tout à l'heure de ça.
Alors,
ils ont la chance, étant Africains, d'être suprémacistes et non racistes, puisqu'il n'y a que nous qui sommes racistes. J'ai vu dans la presse qu'ils étaient suprémacistes. Le racisme,
j'ai regardé dans un dictionnaire, ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas, je n'ai pas vu.
Mais en français, non, pas comprendre. Ça.
D'accord.
Bon, mais oui, en fait, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il met en lumière plusieurs choses. D'abord que l'esclavage ne porte pas que sur les nègres, et ça, c'est quand même très important de le dire et de le répéter. Et parce que il n'y a pas de monopole de la misère, il n'y a pas de monopole du malheur, il n'y a pas de monopole du cœur, comme disait je ne sais plus qui. Et puis la deuxième chose, c'est que l'esclavage n'est pas un phénomène révolu dont on pourrait faire
malheureusement non,
dont on pourrait considérer que bon bah c'est une espèce de chose du passé épouvantable de la France, comme l'Inquisition, je sais pas quoi, le vol de chevaux, enfin on peut trouver plein de choses qui ont disparu, mais ça existe encore aujourd'hui et pour autant que je sache, assez peu en France, sinon dans quelques ambassades africaines.
Alors voilà, on a quelques cas de... Il y a un comité européen contre l'esclavage moderne, je ne sais plus trop le logo, qui effectivement s'inquiète de l'esclavage en Europe, notamment en France. À chaque fois qu'il y a un cas, et il y a un livre d'ailleurs préfacé par Elisabeth Banater sur le sujet, chaque fois qu'il y a un cas, systématiquement, il s'agit de diplomates. Le diplomate est très preneur d'esclaves, je ne sais pas pourquoi. Et généralement, des diplomates issus de cultures et de nations traditionnellement ayant été ou étant esclavagistes. Donc on va trouver On va trouver des malgaches, on va trouver effectivement un certain nombre de ressortissants, de diplomates africains. Et généralement, ce sont des gamines du pays qu'ils amènent avec eux. Elles ont 14, 15, 16 ans. Bon, on a tout un tas de cas, j'en cite un ou deux dans mon livre, qui sont taillables et corvéables à merci, 20 heures par jour, qui prennent des coups, voire des tortures, etc., qui n'ont pas d'argent de poche. Donc, puis un jour, l'affaire éclate par... Alors, comme ce sont des diplomates, ils ont une immunité diplomatique, donc on leur dit que c'est pas bien. On leur écrit, on leur dit que c'est pas bien, que ça se fait pas chez nous, qu'il faut éviter, etc. Mais ça va pas tellement plus loin, en fait.
Ils s'en foutent puissamment.
Ils s'en foutent puissamment.
J'ai assisté à une scène, parce qu'on a des amis qui sont forains, et qui ont un gros métier, ce qu'on appelle... nous, on appelle ça des manèges, mais eux appellent ça un métier. Et un jour, j'étais en train de bavarder avec eux sur leur métier. On était allé leur rendre visite. Et on a vu arriver une palanquée de jeunes, d'enfants d'un émirat, avec les gardes du corps, avec tout... Et le garde du corps qui était la valoche au billet et qui ouvrait les billets pour acheter les tickets de manège par poignée de sang. Et il y avait parmi eux d'autres enfants, mais qui visiblement étaient différents. Et notamment, il y avait parmi ces enfants, qui n'étaient pas des enfants d'ailleurs, il y avait deux nains. Et je regardais ça d'un air curieux, et l'ami qui m'en savait dit bah, « ça, tu vois, c'est... les enfants de l'ambassadeur de, je sais plus quel émirat, un émirat quelconque. Et puis, les autres gosses, là, c'est leurs esclaves. Et les nains, c'est les esclaves qui les font rire. Alors, ils les battent et ils s'amusent beaucoup. Ça se passe à Paris en 1999, enfin, il n'y a pas longtemps. Tout le monde le sait. Tout le monde voit ça, c'est au vu, au su de tout le monde. Et de même que, je crois que c'est Paris Match qui avait publié ces photos extraordinaires de policiers qui viennent contrôler des prostituées
sur les périphériques,
les périphériques, et demandent les papiers. Les filles disent on n'a pas de papiers. Les papiers, c'est le monsieur qui est dans la voiture là-bas. Et donc le Mac, il est dans la voiture avec les passeports des Albanaises, Kosovars, enfin ce que vous voudrez. Et quand les flics tapent à la vitre, monsieur, vous avez les papiers des filles? Oui, il a sorti les passeports, il leur a donné, ils ont gardé et tout, ils lui ont rendu les passeports.
Reportage photo dans Match, Sarkozy étant ministre de l'Intérieur. Ouais. Alors je rappelle aux auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur que la prostitution est autorisée en France, mais que le proxénétisme est censé être réprimé. Et voilà comment monsieur Sarkozy dit, Sarko le terrible dit, le Karcher des banlieues réprime la prostitution à Paris il y a deux ans.
Et ça, c'est quand même... les mêmes gens qui après font des discours en disant c'est vrai qu'il y a 200 ans on a participé au commerce triangulaire
Mais vous avez remarqué Serge qu'ils ont commencé par annoncer qu'on allait fêter l'abolition de l'esclavage, et puis ils sont quand même assez nombreux dans les cabinets, je parle des cabinets ministériels bien entendu, pour se consulter de temps en temps, déjeuner, et puis c'est devenu les abolitions. Ce qui indique que on n'est pas sorti, on n'a pas fini de l'abolir l'esclavage et de fêter les abolitions.
Oui, alors j'aimerais juste rajouter par rapport aux abolitions, par rapport à ce que vous dites, effectivement, ce qui est important, et je le cite dans mon livre, tout le mouvement abolitionniste, effectivement, on parle généralement des abolitions, parce que ça a été à des rythmes divers, selon les nations, selon les pays. Le premier pays à abolir officiellement était le Danemark. Effectivement, il y a un mouvement abolitionniste qui est uniquement occidental, il faut le rappeler. Nous avons pratiqué l'esclavage plus tard que les autres, arrêté plus tôt, et avons été les seuls à militer pour les abolitions. C'est-à-dire que c'est venu essentiellement de Grande-Bretagne, mais en France aussi, avec des gens comme Diderot, par exemple, avec des gens comme Voltaire, avec tout un mouvement de l'abbé Grégoire, avec les Quakers américains, etc. Donc tout le camp abolitionniste est... Alors il y a eu un silence assourdissant au niveau des négriers arabo-musulmans et de l'Afrique noire, qui ont résisté, qui ont refusé l'abolition. Et après les abolitions, faut savoir que la traite s'est relancée de plus belle sur la face australe de l'Afrique, et notamment à Zanzibar. Elle a redoublé.
Il faut ajouter que c'est un prêtre français, un prélat français qui a lutté le plus efficacement contre l'esclavage, qui était Monseigneur le Cardinal d'Algérie.
Oui, tout à fait.
Qui a été déterminant dans l'arrêt de l'esclavage des Africains. Et ça, il faudrait peut-être y penser de temps en temps quand on parle de ces questions.
Saint-Vincent de Paul a été esclave
oui,
en Algérie.
Oui, alors Saint-Vincent de Paul faisait comme fait maintenant le groupe dont nous parlait Arnaud Raffard de Brienne à l'instant, c'est-à-dire peut-être qu'il rachetait des esclaves aux barbaresques.
Il a été esclave lui-même. J'ai d'ailleurs, bon, ça sera un petit peu long peut-être pour l'émission, j'ai un témoignage de sa part où effectivement il raconte sa captivité, où il raconte qu'il est sur le marché d'Alger, ils ont fait le tour de la ville en trottinant pour voir s'il marchait bien, on leur a montré les dents, découvert les dents. Enfin, il raconte tout ça, hein, c'est très...
Vous venez de parler de Voltaire. Est-il exactement d'une auditrice que la fortune de Voltaire provenait de la traite des Noirs?
Alors, on l'a toujours dit, je sais pas.
Je cite dans mon livre, à un moment j'ai dit Voltaire luttait pour les abolitions, mais il avait quand même acheté des parts dans les armements négriers. Donc on n'est jamais trop prudent. Hein,
oui, mais enfin ça, qu'est-ce que regardez les écologistes aujourd'hui, ils vont dans les manifs, dans les meetings écolos, ils y vont en voiture.
Oui, c'est ça.
Voilà, hein, et puis ils utilisent l'électricité, c'est voilà, faire la bougie. Donc
toujours ménager la chaleur.
Quand même, être un peu raisonnable. Merci Arnaud Raffard de Brienne. Vous serez donc vous aussi le 11 juin. Pour présenter la désinformation autour des esclaves, il faut rendre une fois de plus hommage, si j'ose dire, à l'éditeur, l'Étoile du Berger, qui fait un travail magnifique. C'est un très 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 joli petit livre, imprimé sur du très joli papier, et c'est des petits livres qu'on aime avoir en main, comme ça, qu'on aime toucher, parce que c'est un plaisir de bibliophile, en plus du contenu.
Si vous permettez, Serge, je vais peut-être rappeler les coordonnées de l'éditeur, parce qu'effectivement...
C'est une étoile. Ah bah oui, l'Étoile du Berger.
L'Étoile du Berger, c'est le nom de la série. Par contre, l'éditeur, c'est Atelier Folfer, F-O-L, donc plus loin Fer, hein, F-E-R, 11 rue des Récollets, 75-010 Paris, dans le 10e, donc. Hein. Et par ailleurs, donc, il y aura une dédicace également à France Livre ce samedi entre 15h et 18h. Je dédicacerai ce livre à France Livre.
Avec Elisabeth Escal qui, elle, dédicacera le livre du et sur le commandant Guillaume.
Pouvez-vous redonner le titre exact du livre et puis c'est une auditrice qui demande.
Lequel?
Du commandant Guillaume.
Le livre
Mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon honneur à moi.
Mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon honneur à moi.
La devise de l'homme de guerre.
Et puis, le livre d'Arnaud Raffard de Brienne, La désinformation autour de l'esclavage, et le livre de Madame Marie-France Garraud, La fête des fous.
Chez Plomb.
Qui a tué la 5e République. Il faudrait quand même nous donner un nom, qu'on puisse lui donner une décoration.
Justement, il y a un proverbe arabe que le nom de vaisseau qui m'aimait bien, un proverbe arabe bédouin, qui dit « Ne cours pas après ton ennemi ». Assieds-toi au bord du fleuve et tu verras bientôt passer son cadavre.
Oui, on est plus là. Ça vient toujours trop tard, ça. C'est un spectacle de vieillard. Merci à tous de nous avoir aidés à assurer cette première partie. Je sais que vous avez, Madame Garraud, un rendez-vous important, donc je vous libère.
Merci.
Encore que vous n'étiez pas prisonnière.
Merci beaucoup.
Merci Camille de nous avoir accompagnés silencieusement.
C'est un plaisir d'être parmi vous.
Merci beaucoup. Et puis, je crois que nous avons un intervenant téléphonique, un insert téléphonique, comme on dit. Allô, allô.
L'insert téléphonique vous salue.
Eh bien, dès que j'aurai mis mon casque à l'endroit, comme disait le Waffen-SS,
absolument,
je verrai plus clair pour vous répondre. Bonsoir Jean-Marc Savary.
Bonsoir Serge de Beketch.
Alors Jean-Marc Savary, vous êtes directeur de la revue Liber Mirabilis, le livre admirable.
Oui.
Qui est une revue d'études des civilisations comparées.
Oui.
Et j'ai pensé que, parce qu'on nous demande, Jean Ferré nous demande de donner un titre à nos entretiens qui en résume le contenu. Alors je me suis amusé, j'ai appelé ça « La vérité est-elle ailleurs ?»
Oh, je pense qu'on peut penser raisonnablement, par rapport à tout ce qui a, d'ailleurs a été évoqué depuis le début de cette émission, que forcément la vérité est ailleurs.
Alors, votre revue, elle se signale d'abord par une élégance éditoriale, exceptionnelle pour une revue, elle est très belle.
Attendez, il faudrait que Patrick Goffman confirme que ma revue est très belle.
Bah, est-ce que Patrick Goffman la trouve très belle?
D'ouvrier du livre, vous voulez dire?
Oui. Non, c'est vrai qu'elle est très très belle, le papier est beau, la présentation est élégante.
Ouais.
Et puis, les sujets sont tout à fait passionnants. Alors, j'ai dit que c'était le quart d'heure gnostique, donc je pense que beaucoup d'auditeurs nous auront lâchés. Pour l'instant, on a perdu les antigaullistes, les nègres, les arabes, les ennemis de la marine. Enfin, il nous en reste plus beaucoup quand même, hein, des auditeurs.
Meilleur,
et alors maintenant, les antignostiques sont... Voilà, les antidiagnostics s'en vont.
Ouais.
Et en deuxième partie, les gens qui n'aiment pas l'agriculture pourront partir. Donc comme ça, on finira l'émission entre nous, tranquillement. Je suis en train de chercher les notes que j'avais prises. Voilà, c'est ça, pour préparer votre entretien, l'entretien avec vous.
Oui.
Alors, ce Liber Mirabilis, il faut que je dise que c'est un format, c'est un grand format, plus 21, 29, 7, rectifié 33. Hein, il est grand, il est beau. Le papier en est de très bonne qualité. Et le contenu, alors c'est tout à fait ce que j'aime, c'est-à-dire, bon, par exemple, je prends un numéro au hasard, qui est ancien déjà, puisqu'il a, il a 4 ans. Alors, on trouve un article sur les Ligures, un article sur le Seigneur des Anneaux, un article sur le périple du Graal en Gaule, et un article intitulé joliment « Bramar cum una clapat », ce qui est du catalan, si je ne m'abuse, ce qui veut dire gueuler comme un quoi, un clapate, qu'est-ce que c'est ça? Une bestiole quelconque.
Catalan, moi, je suis languedocien. Ah. D'abord, avoir un président de région qui a voulu nous enfermer dans la septimanie dont on ne sait pas ce que ça peut représenter aujourd'hui. Mais il y a une différence. Donc, je reste languedocien et pas catalan.
Donc, il faudra qu'on se débrouille pour trouver le sens de cet aclapate.
C'est une voix hypothétique.
Pardon.
C'est une voie initiatique que de trouver.
Voilà, c'est ça. Il faut faire sa recherche soi-même. Et ces papiers sont bien écrits. Et puis les sujets sont vraiment inattendus, toujours nouveaux, toujours un peu en marge de tout ce qu'on peut entendre à longueur de journée sur les radios, les télévisions et lire dans la presse en général. Mais quand même, de temps en temps, vous tombez droit sur le sujet qui fâche, puisque je crois que très prochainement, là, vous allez publier quelque chose sur le Da Vinci Code.
Ben, le Da Vinci Connerie, on va le décoder, pour pas dire autre chose.
Arrêtez de décoder, bien sûr. Non, n'arrêtez pas de décoder, au contraire.
Mais justement, ce qui serait dramatique, c'est que l'on confonde le Da Vinci Code et la gnose. C'est vrai que c'est Gnose toujours, tu m'intéresses.
Bien sûr, ça c'est la devise de cette émission.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une aspiration pour le sacré, et je dirais pour la symbolique, et pour ce qui peut élever les hommes dans une époque où on nous pousse tous à être dans l'horizontalité, pour ne pas dire pour revenir à l'animalité. Et il y a vraiment une recherche du sacré, du sens, du symbole et de ce qui peut être transcendant. Et à côté de ça, il peut y avoir ce que j'appelle, il y a l'ésotérisme et le zozotérisme. Ceci étant dit, pour ce qui est le Da Vinci Code, il faut quand même reconnaître que l'auteur n'a jamais revendiqué le fait de sortir quelque chose d'extraordinaire, une révélation particulière. C'est un homme qui a une habileté commerciale extraordinaire et qui a expliqué qu'à partir de...
Vous parlez de Dan Brown, là.
Voilà, de Dan Brown. Hein.
J'espère qu'il est meilleur commerçant qu'écrivain, parce que franchement...
Non, mais je veux dire, il nous a fait un Belphégor des années 2000.
Oui, mais c'est ça, c'est
voilà,
exactement
bon,
ça.
Si on le prend comme un Belphégor des années 2000, ma foi, c'est acceptable, même si le film est a priori très soporifique. Je suis allé le voir parce que je ne m'autorise certaines crucifixions, moi aussi. Et c'est vrai que le film est très, très soporifique.
Je ne peux pas dire s'il est soporifique ou pas, parce que j'ai dormi pendant les 9 dixièmes du film. Alors, c'est un peu difficile de...
C'est soporifique, donc c'est quand même moins dangereux.
J'ai même pas eu le temps de m'en apercevoir.
Ça fait du bien. Et puis alors, ce que j'ai adoré, parce que même si on entre dans le système dans lequel certains voudraient nous faire rentrer, c'est-à-dire, après tout, il y aurait une descendance du Christ, il y aurait eu des enfants, etc., et il y aurait des enfants cachés. Alors, on y arrive à la fin du film et on nous explique, tiens, voilà, ça c'est la fille du Christ, enfin l'arrière,
comme Mitterrand,
la fille du Christ. Ouais. Il dit, ah, je peux pas marcher sur l'eau, qu'est-ce que je vais faire? Mais je reste caché. Bon, je veux dire, si c'est ça. Tout le but du film.
Ouais.
Bon,
Non, mais attendez, c'est pas du tout une blague ce que raconte Jean-Marc Savary. Il y a à la fin du film, Audrey Tautou pose le pied dans l'eau d'une fontaine et son pied s'enfonce et elle dit
«
Mais si, et je ne peux pas marcher sur l'eau, donc je vais rester caché. » Mais oui, absolument, c'est ça le niveau de ce film. Hein, on est vraiment là, oh là là, il y a des moments où on se dit que on aurait mieux fait de rester couché. D'ailleurs, plutôt que d'aller dormir au cinéma, on aurait mieux fait de rester chez soi, on aurait économisé 50 balles.
Oui, non, mais d'un autre côté, aussi, il faut se rappeler quand même qu'à une époque, Orson Welles avait sorti à la radio, c'était pas Radio Courtoisie, mais c'était une autre radio américaine, un système où il expliquait, enfin, un reportage fictif en direct.
L'arrivée des extraterrestres.
Les extraterrestres arrivent, et les gens, c'était tellement bien fait que les gens y ont cru, et ça a mis une panique extraordinaire aux États-Unis. On croyait que les Martiens étaient en train d'envahir les États-Unis.
Alors, cela dit, on a dit qu'il y avait eu des centaines de suicides, tout ça est totalement faux. Il y a eu, rien du tout, en fait. Il y a eu un mouvement d'inquiétude.
Il y a eu une petite panique extraordinaire, et je crois que les gens qui se plaisent, enfin, qui cherchent dans le Da Vinci Code, ce sont des gens qui ne sont peut-être pas ravis de ce qui se passe actuellement, je dirais, dans le côté spirituel, ou actuellement, les gens qui devraient se consacrer au spirituel se consacrent au social de manière plus ou moins heureuse, ne trouvent plus le côté spirituel, et alors ils se jettent dans cette histoire de Da Vinci Code, et essaient de retrouver quelque chose, et s'accrochent à ce qu'ils peuvent, et on se retrouve dans le phénomène Orson Welles, où on va, au lieu de chercher des extraterrestres, on va chercher une descendance du Christ, mais qui de toute façon ne mènera à rien. Donc voilà, je crois que
une descendance cachée.
Leur place, et puis tout simplement, voilà.
Serge, le réalisateur de l'émission vous fait signe qu'il vous reste 4 minutes, et, oui. Et ça m'amène à vous demander quand la promotion du Libre Journal va avoir lieu.
On parlait tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, mon cher Patrick. On est en train de parler du
Libre Journal.
Mais oui, mais non, mais il est vraiment, on ne le tient plus. Hein.
Ah, il est terrible.
On ne le tient
plus. C'est le Libre Misérabilis.
Ah, on me l'a déjà fait.
Dites-moi. Vous allez publier là un numéro consacré à Saint Jean.
Alors, on a publié.
Vous avez publié, oui.
Consacré à Saint Jean que je présente.
Voilà, oui, c'est ça. Il existe un numéro. Mais alors, est-ce que Saint Jean et Marie-Madeleine étaient bien une seule et même personne? Non, je vous pose la question parce que c'est ça la grande question de la vie et de la mort et du sens de l'existence, comme dit je ne sais plus qui.
Je crois vraiment que si les gens veulent s'orienter vers le Centre européen des mythes et légendes et le Liber Mirabilis, ils trouveront difficilement de telles accointances. Et je crois qu'il faut mettre d'un côté la fiction et les choses extraordinaires qui peuvent exister, comme le Da Vinci Code, et puis ce qu'on peut rêver. On peut croire que Mickey existe, hein, on le trouve au centre Mickey, là où...
Ah oui, oui,
on peut aller le voir, lui faire des bisous, photographier avec. C'est très bien, ça fait rêver. Non, je crois que notre revue se situe vraiment dans un axe particulier, c'est-à-dire c'est l'étude des mythes des civilisations, des religions et du sens du sacré. C'est-à-dire que je crois profondément que l'homme, quelle que soit sa latitude, a toujours une aspiration au sacré, au symbolisme, et à quelque chose qui nous dirige vers le haut plutôt que vers le bas, voire vers l'horizontalité. Donc c'est ce que l'on va creuser, et on va pas être des, si j'ose dire, révisionnistes de l'histoire.
Oh là, surtout pas, je ne manquerai plus que ça, alors là.
C'est
pas le genre de la maison.
Non, absolument pas. Quand c'est l'histoire sacrée. Donc là, il ne s'agit pas de cela. Non, quand on parle de Saint Jean, alors on peut avoir plusieurs visions du texte de Saint Jean, puisque c'est de cela dont on parle. Et effectivement, il peut y avoir une vision plutôt gnostique, une vision plutôt orthodoxe. Et le propre du centre que je dirige et de la revue que je dirige, c'est-à-dire on peut avoir une vision très gnostique du texte de Saint Jean, tel que sera défendu par... un auteur comme Jean Patou, qui est un homme qui a une très grande érudition sur toutes les religions et qui a une vision plutôt gnostique, et puis quelqu'un comme Jacques Darès, qui aurait une vision plutôt orthodoxe de la chose et qui va le présenter également. Nous, nous sommes une revue de recherche, pas une école de pensée.
Je vais vous demander, on va redonner la parole dans 2 minutes, mais je vais vous demander 2 minutes de patience, le temps de procéder à la pause technique.
Je suis patient, il n'y a pas de souci.
Merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie à 21h tout à l'heure. Les soirées musicales en compagnie de Claudio, la discothèque pour connaisseurs et amateurs, les musiques de films et les grands pianistes, comme d'habitude le mercredi soir. Et puis tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie. Bonne soirée, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 31 mai 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 1er juin dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, nous reprenons la conversation avec Jean-Marc Savary, mais avant je voudrais envoyer un message à l'auditeur qui a appelé. Cet ami de Pierre Guillaume qui dînait avec lui tous les 3 décembre et pour lui dire que s'il pouvait laisser ses coordonnées, Elisabeth Escal aimerait beaucoup entrer en contact avec lui. Voilà, le message est passé. Je reviens vers Jean-Marc Savary, fondateur et directeur du Liber Mirabilis, qui est une fort belle revue, revue d'études des civilisations comparées. Et qu'étions-nous en train de dire? Qu'étions-nous en train de dire, Jean-Marc? J'ai levé le pied, moi, pendant ce temps, pendant la pause technique.
Je disais simplement qu'il faut faire une distinction entre... De toute façon, on vit un siècle de la confusion. Et dans ce siècle de la confusion, ces années de confusion...
C'est mon excellent camarade Guénon qui nous disait ça, non?
Absolument. Guénon voilà. A dit, bon, il s'est converti à l'islam, c'est parce qu'il a fait le mieux. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a une massification, une confusion absolue. Et c'est-à-dire que maintenant, même le sens du sacré, même le sens d'une quête d'une transcendance... se perd dans les méandres d'un ésotérisme extraordinaire avec des livres, des romans, parce que les gens n'ayant plus de racines ni de culture, on arrive à faire avaler n'importe quoi et étant donné que ce n'importe quoi est tellement flagrant et tellement stupide, on pourrait penser que donc tout ce qui peut mener à la transcendance n'est qu'une voie de sans issue. Alors ce n'est pas le cas. Il y a vraiment une transcendance, il y a un sens du sacré, il y a une langue du symbolisme, et cela on peut le retrouver avec des études sérieuses, mais en gardant les pieds sur terre, tout en ayant la tête dans les étoiles. Voilà le fond du propos.
Alors, vous viendrez le 11 juin nous présenter votre revue
à l'espace Charenton.
À l'espace Charenton.
Métro Porte de Charenton.
Voilà.
Oui.
Il est très très bien, Goffman, finalement.
Il est très bien. Il est surtout bien. Quand il dit de bien de ma revue.
Ah oui, oui.
Non, là, Misérabilis.
Et vous apporterez d'ailleurs quelques exemplaires de cette revue.
Oui.
Pour les présenter aux auditeurs.
Oui.
Et je dois dire que c'est vraiment une revue passionnante. Est-ce que ça vous choque si on dit que ça évoque, pas dans la présentation, mais dans le contenu, le planète des meilleures années?
Non seulement ça ne me choque pas, mais ça m'émeut. Parce que les gens qui ont fait le planète de cette époque-là étaient des gens tout à fait remarquables. Et c'était des chercheurs, c'est-à-dire que ce qui me déçoit beaucoup de nos jours, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui sont, entre parenthèses, entre guillemets, qui se prétendent initiés, pensant que initié c'est celui qui sait, alors que initié c'est celui qui cherche. Donc nous n'avons aucun message à donner en disant nous savons une vérité qui nous a été léguée de l'ancienne Égypte ou de l'Atlantide ou de je ne sais trop quoi. Nous sommes des gens qui cherchons le sacré, nous sommes des honnêtes chercheurs. Et Planète était dans cet esprit de chercheur. Et nous avons essayé de rétablir cela, c'est-à-dire que nous avons vraiment des collaborateurs qui essayons de retrouver le sens du sacré pour l'être humain. C'est ce qui nous intéresse. Ce sens du sacré, nous essayons de le retrouver dans la revue. Ça fait quand même 20 ans que nous travaillons et que nous fonctionnons tout comme Radio Courtoisie, c'est-à-dire sans aucun soutien particulier ni financement occulte. Nous n'avons pas besoin d'être graciés par qui
que ce soit. C'est plutôt les coups de pied occultes que les financements que vous connaissez. C'est comme nous, oui.
Absolument. Et donc, bon, cette revue, alors, il va y avoir une révolution, c'est-à-dire, et peut-être qu'on va se rapprocher encore plus de Planète à partir de la rentrée prochaine, parce que notre revue va changer de format, c'est-à-dire va prendre le format livre, va prendre une pagination assez conséquente, c'est-à-dire plus de 120 pages par numéro, à chaque numéro trimestriel, parce que nous avons beaucoup d'articles et que nous essayons peut-être d'être classés également dans les rayons de bibliothèque avec plus de facilité. Mais ce cousinage ou ce parrainage ou cette filiation spirituelle avec la revue Planète me plaît beaucoup, parce que c'était des gens libres qui librement essayaient de trouver des voies du sacré, et c'est ce que nous essayons de faire à notre modeste échelle. Voilà.
Alors, je signale d'ailleurs que le jour de le 11 juin, vous proposerez aux visiteurs du stand un cadeau qui n'est pas négligeable, puisque vous proposerez deux abonnements pour le prix d'un.
Oui.
Ce sera la seule revue qu'on pourra lire en stéréo, donc.
Il faut vivre avec son temps. La stéréo, c'est bien. Non, c'est-à-dire que d'abord parce que je trouve que Radio Courtoisie est une radio militante, forte, indépendante et qui mérite soutien. Et je me sens honoré d'être invité encore plus au stand de Serge de Beketch, qui est une émission que je suis depuis des années. Et donc, je voulais faire un effort particulier. Alors, pour toutes les personnes qui d'abord pourront voir la revue, de se voir de ce dont on parle, elles auront la possibilité de prendre un abonnement, c'est-à-dire pour l'année qui va venir, c'est-à-dire 4 numéros dans le nouveau format livre avec la superbe pagination que nous allons faire. Mais également, pour ces personnes qui prendront l'abonnement durant le salon, nous leur offrirons 4 anciens numéros, donc l'équivalent d'un deuxième abonnement, de manière à ce qu'elle soit également remerciée de faire partie de notre petite équipe pour les années qui viennent.
Ben c'est très gentil. Jean-Marc Tavary, on vous attend avec impatience. J'ajouterai pour... Pardon.
Oui.
Pour régler une fois pour toutes cette question idiote du gnosticisme, de la gnose et tout, quelques lignes de lecture. Vous dites vous-même que votre revue est un lieu de recherche,
oui,
et en aucun cas une école de pensée, non, avec les grands vénérables de la cause entendue ou autres chevaliers de la ferblanterie du verbiage sacré. J'aime beaucoup ça. Et les sujets qu'on trouve dans cette revue, alors j'en ai cité un ou deux tout à l'heure, mais en voici quelques autres. En Corse, Dieu et déesse de pierre. Il s'agit naturellement des pierres levées qui sont innombrables en Corse et qui montrent d'ailleurs l'extraordinaire ancienneté du peuplement humain de cette île qui est la plus belle île du monde. Nicolas Roerich, le maître des montagnes.
Oui.
Un article sur la naissance de Nostradamus
qui a été falsifié plusieurs fois, on explique pourquoi.
Voilà. Un papier que j'imagine, je l'ai pas lu, mais que j'imagine très intéressant sur l'épopée du Mutus Liber. Le Mutus Liber, c'est un livre d'alchimie dans lequel il n'y a pas un seul mot écrit, c'est uniquement la communication, l'information est communiquée par des images.
Oui.
Et ça offre un terrain de réflexion extraordinaire. C'est vraiment un document assez effrayant d'ailleurs.
Ouais, c'est d'autant plus extraordinaire qu'il s'agit d'un livre vraiment de référence pour tous les alchimistes qu'on appelle opératifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent au fourneau. Et nous avons la chance d'avoir un descendant d'un des rédacteurs de ce Mutus Liber et qui nous explique toute l'épopée, le pourquoi et le comment, et pour expliquer que l'alchimie ne vient pas non plus de quelque chose de magique qui serait apparu un jour par hasard, mais qu'il y a toute une histoire derrière. C'est ce qu'on démontre dans nos numéros.
Voilà. Alors, on pourra vous rencontrer donc le 11 juin.
Oui.
Où vous viendrez présenter votre Liber Mirabilis, la revue d'études des civilisations comparées. Et vous viendrez d'ailleurs accompagnant notre ami Bertrand
Daquin,
qui était venu dans cette émission présenter son livre extraordinaire sur l'Apocalypse. Enfin, c'est pas un livre sur l'Apocalypse, c'est une réflexion sur l'Apocalypse. C'est un livre qu'il faut lire, c'est un gros livre qu'il faut lire et qu'il faut relire parce qu'il est, à certains moments, fulgurant de perception, de pertinence et de profondeur. Et je sais que Bertrand Daquin est un de vos amis.
C'est plus qu'un ami.
Plus qu'un ami.
C'est vraiment un proche, c'est presque un père spirituel, si je veux dire, cette année. En fait, ce livre de Bertrand Daquin est, je dirais, la résultante d'années de recherches, d'études, de comparaisons, de discussions que nous avons eues. Et c'est dans la droite lignée de ce que nous cherchons à présenter dans le cadre du centre et de nos recherches, c'est-à-dire qu'il y a des textes sacrés qui existent sous toutes les latitudes, qui expliquent les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un même message qui est acclimaté, si j'ose dire, suivant les pays. Et tout ça, ça fait partie d'une même lignée, d'une même équipe qu'on va présenter avec grand plaisir au stand de Serge de Bekech lors du Salon du Livre de Radio Courtoisie.
Alors le centre dont vous parlez, c'est le Centre Européen des Mythes et Légendes.
Oui. Donc nous avons un site internet qui s'appelle liber-mirabilis.com. On peut nous joindre au 04 68 25 20 96 pour ceux qui souhaiteraient avoir d'autres renseignements. Mais enfin, nous serons présents pour ceux qui viennent au salon de Radio Courtoisie. Nous serons présents et nous vous présenterons tout cela. C'est un centre d'études. Je peux vous dire en deux mots, parce qu'on avait fait un petit texte à l'époque pour essayer d'expliquer notre démarche pour que les gens comprennent un peu ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes un centre qui recherchons la relation de tous les symboles et mythes sans exclusive. Les contes et légendes de la tradition orale qui contiennent toute la symbolique issue de l'esprit de l'homme confronté à la finalité de sa condition, les mystères fondateurs des grandes religions et civilisations pour en démontrer l'unicité et la valeur universelle, il n'est en aucune façon question de prendre position par rapport à une idéologie, ni de porter un jugement de valeur sur une mythologie ou une métaphysique par rapport à telle ou telle autre. Nous affirmons que la pensée humaine est une, ainsi que la conscience de cette pensée, la diversité de son expression, n'est que le fruit de différences géographiques, climatiques et culturelles. Voilà. Donc c'est une recherche absolue du sacré, parce que, comme vous le disiez en début de cette interview, et j'en prends avec plaisir, la vérité est ailleurs, il suffit de la chercher, mais avec honnêteté, et sans chercher le merveilleux là où il ne se niche pas.
Merci Jean-Marc. Alors, à dimanche 11 juin...
À l'espace Charenton,
c'est ça.
Rue de Charenton, métro Porte de Charenton. Ce sera la fête des fous et donc naturellement nous la présiderons.
Il est très bien ce gosse.
Oui, il est parfait. Je crois que je vais le garder finalement. Je l'avais viré mais je crois que je vais le garder. À bientôt Jean-Marc, au revoir.
Au revoir.
Eh bien oui, je suis viré à la une du Libre Journal numéro 379. Qui est sorti des presses aujourd'hui même, si je ne m'abuse.
Oui, mon cher docteur.
Bon, alors pourquoi est-ce que je suis viré, au moins virtuellement? C'est que, pour la première fois depuis l'approche du film La Passion de Mel Gibson, nous nous offrons une polémique interne assez vigoureuse, et celle-ci porte sur la perspective de l'Union patriotique, lancée par Jean-Marie Le Pen il y a quelques semaines, que certains ont accepté, auquel certains croient, à laquelle vous, Serge, vous ne croyez pas, vous l'avez dit déjà dans le numéro précédent, et donc je contredis le patron, et donc je suis viré au moins à la une du Libre Journal numéro 379. Nous avons retrouvé la plume de François Brignot. Je ne le présente pas, non seulement parce que j'ai pas le temps, mais enfin parce que on a peut-être à l'écoute quelques-uns des 300 000 lecteurs de minutes des années 70 et 80. Brignot revient, et il revient en pleine forme, au point qu'il se dévoue pour traiter de l'affaire Clearstream qui casse les pieds de tout le monde. Lui arrive à la rendre non seulement claire, mais amusante, et dans la foulée, il décrit le suicide du scorpion Villepin. Oui, le saviez-vous? Villepin est scorpion, ou c'est un scorpion. Brignot vous explique ça sur deux pages. On a peut-être des lecteurs qui sont concernés par les lois Borloo, Robien, Besson, enfin il y en a une douzaine sur la défiscalisation immobilière, ceux qui ont un patrimoine ou qui essayent d'en constituer un.
Ou d'en conserver un.
Nous avons de nos amis, un des meilleurs experts en gestion de patrimoine, et il, sans s'énerver d'ailleurs, très clairement, il démontre les pièges. Parce que la défiscalisation, elle est conditionnelle. Il dit, attention, si vous achetez un immeuble et que vous n'avez pas de locataire, ou que vous louez au-dessus de tel prix, ou que si, ou que ça, la défiscalisation va vous exploser dans la figure. Alors, donc je pense qu'il y a des auditeurs que ça concerne. On a des reportages au Sénégal, en Inde, au Brésil. Nicolas Bonnel nous envoie un reportage d'une croisière sur l'Amazon. Il a rencontré des drôles de dames, et j'ai tout compris. Donc ça, il aura d'autres lecteurs que Gollnisch et Serge de Becquet, je pense, ce numéro-là. On revient évidemment sur l'interview.
Je ne sais pas si vous avez noté, chers auditeurs, la perfidie du propos de Goffman qui soutient à mordicus que Bonnal n'a que deux lecteurs, Gollnisch et moi-même.
C'est lui qui l'a écrit il y a quelques semaines. Et j'étais obligé d'acquiescer que je comprenais pas ces articles. Et là, il nous donne un reportage que je comprends très bien et que j'apprécie, que je savoure, qui est passionnant. On dirait une chanson de Lavillier en mieux écrit. évidemment, on est obligé de revenir sur l'interview de Philippe de Villiers et sa photo à la une d'Actualité juive. Naturellement, on le fait dans le meilleur esprit et dans l'esprit de l'Union patriotique. Merci. Pour les auditeurs, encore les mal compris.
Ah tiens, à propos de Villiers, il faut quand même que je raconte une histoire, si vous m'accordez une seconde.
oui, naturellement.
J'ai reçu ce matin, non, hier soir, une lettre d'un monsieur qui me dit exactement la chose suivante. Monsieur, j'ai décidé de ne pas me réabonner au Libre Journal en raison, non pas des propos désagréables que vous avez tenus contre De Villiers puisque vous n'en avez pas parlé, mais d'un article particulièrement désagréable qui a été publié par Rivarol. Appelons ça, si vous voulez, les dégâts collatéraux.
Ah, c'est extraordinaire.
Donc je dis à Camille Gallic, si vous m'écoutez, vous êtes prié de m'envoyer 110 euros parce que je viens de perdre un abonné par votre faute. Et je trouve ça quand même un peu saumâtre.
Oui, il y a eu un article très dur. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par reproduire la une d'Actualité juive. Alors ça, c'est un peu déloyal quand même.
Mais comme cet auditeur n'était pas abonné à Rivarol, il pouvait pas se désabonner de Rivarol. Il s'est dit comment je pourrais faire pour me venger.
Et voilà.
Il se désabonne du Libre Journal.
Salaud, il pleut. je me désabonne du Libre Journal. C'est bon. C'est une logique verticale, mais ça illustre, vous faites bien d'en parler, Serge. Parce que ça illustre le sort de la presse patriotique qui est le dos contre le mur avec quelques centaines, en ce qui nous concerne, quelques milliers d'abonnés qui, pour beaucoup, la félicite, la remercie, se réabonne, mais pour certains, lui lance des pierres en lui disant « Mais comment, Saligo, avez-vous osé publier cet article chez le voisin, chez Rivarol, ou bien vous êtes pour Maigret, ou vous êtes pour Le Pen, ou vous êtes pour ci, vous êtes pour ça ?» Voilà, et on est vraiment dans une situation difficile. Alors, je poursuis je termine le rapide survol de ce numéro 379, et là, je m'adresse encore aux mal comprenants comme moi, ceux qui ont eu du mal à suivre votre discussion théologique sur cette antenne avec l'abbé Secada de Floride à propos de la validité des ordinations depuis 68, ils vont pouvoir comprendre parce que c'est transcrit dans le Libre Journal. Et là, on a tout le temps de se prendre la tête à deux mains, d'ouvrir le dictionnaire, son manuel d'apologétique.
Et c'est pas une question d'apologétique, c'est plutôt une question...
Non, je dis ça pour qu'on sache que je sais ce que c'est que l'apologétique. Même si je sais pas très bien à quoi l'appliquer, mais c'est pas grave. Je trouve que pour un mécréant, je me défends. Alors, notre ami Claude Timmerman, encore un ingénieur agronome que nos éditeurs connaissent bien, nous donne une double page sur le massacre des dernières bêtes sauvages dans nos montagnes et nos forêts, et cela est bien triste. Notre divin marquis, l'auteur de la meilleure chronique people, ou plutôt mondaine, de toute la presse, nous parle, lui voyage de Catalogne, où il est allé au fameux restaurant El Bouli, où il faut attendre 8 mois à la porte. Les autres, mais pas lui. Et il nous parle d'Art Nouveau à Bruxelles. On a des mots croisés, on a des chroniques de spectacles. Et donc, on peut consulter nos archives sur le site ami francecourtoise.info. On peut recevoir ce numéro 379 contre un carnet de timbres ou 5 euros.
Alors, à ce propos, il faut signaler que si vous, vous voulez vous procurer le numéro, soyez gentil d'envoyer des timbres parce que nous sommes à...
Oui, envoyez plutôt des timbres.
Plus qu'à court de timbres. Alors,
voilà, l'administration...
Ça continue à être obligé d'en acheter à la poste.
Ouais, s'il faut qu'on achète nos timbres, alors là, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte.
Ah oui, voilà.
Donc, envoyez un carnet de timbres pour recevoir ce spécimen. Si vous voulez vous abonner, donc c'est 110 euros à l'ordre de SDB, 4 Place France List, 75 010 Paris. J'ai dit.
J'ai dit, vénérable maître, on dit. C'est bien, mon petit Goffman, vous pouvez disposer.
Merci, patron.
À bientôt. Je voudrais évoquer rapidement l'actualité, notamment à la faveur, mais partez pas tout de suite d'ailleurs, parce que l'histoire de la tribu K, c'est drôle ça, hein.
C'est extrêmement drôle. Je pense que nos amis de la rue des Rosiers ont dû adorer voir débouler une cinquantaine de chemises noires.
Oui.
Dans leur rue des Rosiers.
Puis il n'y avait pas que la chemise, hein, qui était noire. Mais ils étaient en chemise noire, effectivement. Alors, ils ont traversé le quartier. Simplement, ils sont contentés de traverser le quartier. Et alors, évidemment, c'était...
Pas en proférant, agréable. Quand même.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que tout... Alors, ils sont pas fous. Ils se sont fait suivre et filmer pendant tout le temps.
Par le bétard ?
Non, par des gens à eux. Si bien que quand on a, au début, les gens de la rue ont dit, ils criaient des injures antisémites et ils étaient armés de battes de baseball. Et les flics étaient là, ont dit, il n'y avait pas du tout de battes de baseball et il n'y a eu aucune injure antisémite. Et la meilleure preuve, c'est que tout le truc est filmé du début à la fin et on voit bien qu'ils ne profèrent absolument aucune injure.
France Inter m'a fait croire le contraire. Je m'excuse d'y avoir ajouté foi. Je ne crois jamais ce qu'ils racontent.
Pour une fois que France Inter dit quelque chose de contraire à la vérité, on ne va pas en faire un fromage. Mais en attendant, ils se sont contentés de faire acte de présence. C'est-à-dire que s'ils étaient venus me voir chez moi, j'aurais été impressionné aussi parce que ils sont pas taillés dans le brancard de pousse-pousse. Hein. C'est
nourri à rien foutre depuis trois générations.
Le moins costaud, il doit faire 110 kilos et il doit mesurer 1m80. Donc s'il vous met une pêche et qu'il vous rate, il vous enrhume. Et je comprends que les gens étaient... Mais ce que je ne comprends pas, je comprends qu'ils aient été un peu impressionnés, mais ce que je ne comprends pas, c'est la levée de bouclier. Parce que je me souviens, moi qui suis déjà un vieil homme, que... Il y a quelques années, Madame Castro, épouse Fabius, s'était félicitée de l'existence des milices juives. Moi, je veux bien, moi je suis partisan de l'existence de milices, donc quelle qu'elle soit, je suis pour. Mais les milices juives comme les autres, genre, il pourrait y avoir aussi des milices catholiques qui auraient botté le cul des gens qui font des films cochons, des choses comme ça. Mais alors là, les milices nègres s'appelaient plus. Il faudrait m'expliquer au nom de quelle logique c'est bien.
C'est du racisme.
Non, on peut pas soupçonner des juifs d'être racistes. Enfin, vous rigolez, mon vieux, vous êtes fou, c'est impossible. C'est fondamentalement impossible. Mais je voudrais qu'on m'explique au nom de quelle logique, quand c'est une certaine communauté c'est bien, quand c'est une autre communauté c'est mal. Puisqu'on vit dans un pays communautaire maintenant, chaque communauté sa milice. Hein, vous êtes d'accord? Des milices beurres, des milices juives, des milices nègres, des milices chinoises, des milices auvergnates, des milices métisses, ça c'est les plus jolis quand même. Et puis tout ça, on réunit tout le monde et on s'entretue, parce que il faut quand même en venir à ça, c'est ça l'essentiel, c'est de s'entretuer.
Sinon à quoi bon des milices?
Sinon à quoi bon des milices? Donc, vive la milice, enfin les milices, pardon.
Mais puisque vous m'avez retenu, Serge, vous m'accordez encore...
Il y a même encore des gars qui portent le gamma de la milice au revers, ils le mettent à l'envers d'ailleurs.
Ah oui, voilà, et en rouge.
En rouge, oui.
Vous m'accordez 2 minutes, puisque vous m'avez aimablement retenu, pour dire un mot de l'actualité sportive, dans la mesure où elle est, à mon avis, extrêmement politique. On en a dit 2 mots en privé l'autre jour. Monsieur Chirac, dans la situation... où il est, à laquelle on a fait pudiquement allusion tout à l'heure pour ne pas trop froisser Madame Garraud, Monsieur Chirac et Monsieur de Villepin comptent sur la Coupe du football, du monde de football et la brillante prestation de la France pour faire retomber la tension. Et ils comptent fermement dessus. Une des preuves, c'est que Monsieur de Villepin est allé il y a 3 jours au centre d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine pour apporter ses encouragements. Mais quand on plonge
Les mecs qui croisaient les doigts. Hein,
ouais. Mais quand on plonge le nez, mais même pas dans la presse spécialisée, comme l'équipe qui a titré des bleus bien pâles, j'espère qu'il n'y avait pas d'allusion raciste, après France-Mexique, après le calamiteux France-Mexique de samedi dernier, mais quand on ouvre, on achète simplement, moi j'achète le Figaro, vous doutez bien que c'est pas pour qu'on m'explique le foot. et j'ai deux pleines pages où on dit du pain sur la planche et ensuite des bleus bien mal aimés. Parce que, voyez-vous, 81% des Français pensent que l'équipe de France sera en demi-finale. Mais les supporters de foot, ceux qui étaient à 80 000 au Stade de France samedi dernier, ils ont sifflé presque toutes les vedettes, une par une, et les autres, ils les ont huées. Et le sélectionneur Domenech, qui pourtant travaille à l'astrologie pour choisir ses joueurs, ils l'ont sifflé. Peut-être ont-ils lu, avaient-ils lu dans le journal du dimanche, ou avaient-ils lu les morasses du journal du dimanche qui est paru le lendemain, que Monsieur Domenech aurait touché 50 000 euros, on en parlait il y a une semaine, vous vous souvenez, pour donner l'exclusivité de ses brillants et savants commentaires sur la sélection de l'équipe de France à SFR, en exigeant par surcroît que sa concubine Estelle Denis de M6...
Sa compagne, on dit.
Pardon, sa compagne Estelle Denis de M6 fasse l'interview. C'est corroboré par les déclarations de la Fédération de football qui nous dit... Le contrat a été annulé avec SFR le 17 mai. Voilà, quand même un monsieur, il me semble, qui trafique, je sais pas si on peut dire des choses sacrées, mais en tout cas qui trafique de l'intérêt national, qui trafique... Mais oui, Serge, parce que vous, vous êtes un brillant intellectuel, mais il faut que vous compreniez que dans nos villages et dans nos campagnes, il y a des gens simplets comme moi qui, pendant longtemps, se sont identifiés à l'équipe de France du sport le plus populaire. Pour eux, c'est la France.
Mais il faudra que vous preniez un peu de soleil maintenant pour vous identifier.
Et 81% pensent qu'elle va aller en demi-finale au championnat du monde. Alors, je me fais beaucoup de soucis pour Monsieur Chirac et Monsieur de Villepin, qui pense que ce championnat du monde, cette Coupe du Monde va détendre l'atmosphère, elle ne va pas la détendre longtemps, et cette majorité écrasante de gens qui comptent sur des résultats, en particulier sur ceux de Zidane qui a maintenant 34 ans et qui a joué, nous dit le Figaro, les experts du Figaro, à 2 à l'heure pour France-Mexique, ils vont être fous furieux et la tension va se trouver encore augmentée.
Si vous avez des voitures dans le 9-3, c'est le moment de louer des garages dans le 9-2. Je vous le sais.
C'était notre chronique politico-sportive. On ne dira pas que le libre journal de Serge de Bekesh néglige le moindre recoin de l'actualité.
Merci, camarade Goffman. Vous pouvez retourner à vos occupations. Je vous ai bien de l'obligation de nous avoir expliqué le football.
Merci, patron.
Le sport joue un rôle important en ce moment, entre M. Guy Druth, qui est amnistié, M. tous les footballeurs, tous ces...
Il y a beaucoup de remous.
Hein, beaucoup de remous. Je suis très très content de voir que le sport prend de l'importance, parce que je trouve qu'on n'en donne pas assez. Vous voyez, quand on regarde, on allume la télévision le soir ou la radio, il y a par exemple un tremblement de terre qui fait 5000 morts à Java, on commence par nous donner les résultats d'un match de foot de 3e division à Trifouille les oies contre Champignol, c'est pas suffisant. Il faudrait donner plus d'importance au football. Je trouve que le peuple n'est pas assez abruti en France. Il faudrait en rajouter un petit peu. Non, vous ne croyez pas ? On pourrait peut-être, mon cher Michel Delière, agir sur l'alimentation des Français. Vous avez eu la gentillesse...
Nous sommes là pour ça.
Voilà, vous avez eu la gentillesse d'amener avec vous Madame Dominique Van Egmond-Florian, qu'on va appeler Madame Florian, si vous le permettez, pour simplifier, parce que autrement, c'est un petit peu un piège à langue. C'est un très beau nom, mais qui est un petit peu difficile à prononcer rapidement. Et Madame Dominique Florian est agrobiologiste.
Oui.
Et vous, Michel, on le sait maintenant...
Moi, je suis fermier.
Vous savez que vous avez un fan, qui est mon ami Louis-Henri de Lignières, qui m'a dit « Ah, je suis enchanté d'entendre toujours ce monsieur qui parle si bien du retour à la Terre. » Alors, je vous signale quand même que Louis-Henri de Lignières, il vit dans un appartement du Trocadéro, tapissé de millions de livres et de disques, et que s'il a vu pousser quelque chose, c'est probablement dans le métro, quand on l'a poussé pour le faire rentrer un moment d'affluence, mais il est, vous le faites rêver, voilà.
Alors. Justement, dans le dernier libre journal qui paraît aujourd'hui, il y a un article sur intitulé Agriculture biologique numéro 2, qui introduit l'œuvre de Madame Florian en matière d'agrobiologie.
Alors vous êtes une madame, je voudrais pas vous mettre mal à l'aise par des compliments trop appuyés, mais il semblerait que vous soyez une des figures du milieu de l'agrobiologie, je dirais même presque une des fondatrices de cette technique, de cet art, de cette science, je sais pas comment il faut dire, qui maintenant occupe beaucoup les médias. Vous avez été à l'origine, vous avez fondé une association qui s'appelle l'Institut l'IRAP, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Et qui est donc l'Institut d'agriculture biologique.
De recherche en agriculture biologique.
Et vous êtes considéré en Europe et même peut-être ailleurs comme une des grandes figures de cet univers. Et quelles sont vos origines ? Vous êtes vous-même fille de paysan ? Vous avez...
Mon grand-père était apiculteur.
Oui.
Et j'ai passé mon enfance à la campagne. J'ai eu la chance de passer mon enfance à la campagne. Mais je ne suis pas fille d'agriculteur, non, mais j'ai beaucoup vécu en mon enfance, j'ai beaucoup connu les paysans. J'ai vécu au rythme des saisons. Et certainement que ça m'a très fortement marqué. Ensuite, j'ai habité la ville. Et je suis revenue à l'agriculture biologique à travers la santé. À travers l'alimentation. J'avais des problèmes de santé et j'ai réussi à les éliminer complètement en changeant mon alimentation par la qualité. Et ensuite, je me suis demandé pourquoi cette agriculture biologique n'était pas plus développée compte tenu des résultats. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les agriculteurs qui la pratiquaient avaient des très bons résultats, mais ces résultats n'étaient pas connus. Et on vivait dans un milieu de monopole. Il y avait le monopole de l'agriculture classique, l'agriculture chimique, disons, qui emploie les engrais. On n'avait pas le droit de dire qu'on faisait une qualité différente. Et c'est à ce moment-là que je me suis mobilisée, que j'ai mené une action au début vers 1979-80 pour faire reconnaître l'agriculture biologique. Donc j'ai réussi à l'époque à convaincre le ministre de l'Agriculture donc que c'était une voie
qu'il fallait... Qui était ce ministre ?
Pierre Méhaignerie. Et que l'agriculture biologique était une autre voie et qu'il fallait se conserver une seconde voie pour le cas où l'agriculture actuelle échouerait. Et on est en train de se rendre compte qu'elle échoue d'une certaine façon très particulière au niveau de la pollution de l'environnement.
Alors, je vous pose une question qui est une question de néophyte, vraiment, qui peut passer pour une question idiote, mais est-ce que vous pouvez résumer les différences fondamentales entre l'agriculture que nous connaissons tous, l'agriculture à engrais qui est pratiquée partout, et l'agriculture que vous préconisez et que vous défendez ?
Eh bien, écoutez, il y a une différence essentielle. Les adversaires de l'agriculture biologique, vous dites que toute agriculture est biologique. Moi, je dis qu'il y a une différence majeure, c'est que l'agriculture biologique respecte tous les cycles biologiques de la Terre, tandis que l'agriculture chimique court-circuite ce maillon essentiel qui est les micro-organismes du sol, la transformation, la solubilisation des substances par les micro-organismes, et l'engrais chimique qui est soluble permet d'être absorbé directement par la plante. Autrement dit, c'est un processus essentiel qui est la vie du sol, qui est éliminé, qui est court-circuité, qui débouche sur un déséquilibre de la plante, qui est à ce moment-là gavé de substances solubles, qui est déséquilibré et qui va se développer, et qui va faire naître des maladies et des parasites et qui vont nécessiter les pesticides. Autrement dit, l'engrais chimique entraîne le pesticide.
Alors, n'y voyez pas une tentative de récupération politique, mais un de mes amis me disait... quelques jours, en fait, on se comporte avec l'agriculture moderne comme avec la gestion des cités. C'est-à-dire que on nourrit gratuitement les plantes avec... gratuitement pour les plantes, hein, avec des tas d'engrais, des tas de trucs qu'on ajoute, etc. Ce qui fait que les plantes n'ont plus aucun effort à faire puisque la nourriture leur tombe du ciel, en quelque sorte, et qu'elles deviennent à la fois molles, sans saveur, sans volonté, sans élan vital. Et de la même manière, on donne aux jeunes ou aux chercheurs, aux demandeurs d'emploi, le RMI, le chômage, enfin des indemnités. On leur donne des, pour les jeunes, on leur donne des centres de jeux, on les emmène en vacances, on leur demande rien en contrepartie, si bien qu'ils deviennent ramollis et qu'ils finissent par se contenter d'ouvrir le bec en attendant que ça tombe tout cuit. Et les mêmes effets et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que ça vous paraît un rapprochement décent?
Il y a des processus qui sont également court-circuités dans le corps humain au niveau de l'alimentation, mais je dirais que au niveau de l'agriculture, ce sont des processus essentiels parce que par exemple l'engrais chimique permet d'éliminer l'usage du fumier, par exemple, qui est une des bases de la fertilisation. Et par conséquent, la plante ne va pas pouvoir. La plante, la nature a prévu qu'elle a la capacité de pouvoir choisir dans le sol les substances qui correspondent à sa variété, à son espèce. Et donc, avec les engrais chimiques, la plante ne peut plus choisir les substances dont elle a besoin parce que c'est un processus vital, un processus essentiel qui est supprimé. Donc, par conséquent, je ne dirais pas que c'est tout à fait la même chose, mais disons que les conséquences actuelles sont qu'on ne tient pas compte des physiologies de base. Par exemple, pour les vaches sont alimentées à l'heure actuelle. Maintenant, les vaches ne vont plus dans les pâturages. On essaie de les alimenter avec des aliments qui sont déconcentrés, tout un tas de substances qui ne correspondent pas du tout à leur physiologie. Et donc, les vaches vont pouvoir produire peut-être plus de lait, mais elles seront malades. Et vous savez que maintenant, il y a un nombre considérable de vaches, la plus grande partie, qui ne vivent que 5 ou 6 ans, alors qu'une vache est faite pour venir vivre 15 à 20 ans, parce qu'elles sont alimentées d'une telle façon, elles sont mises en condition de vie de telle façon qu'elles ne supportent pas plus de 2 ou 3 veaux, et ensuite elles meurent et on les abat. Et elles meurent avec des maladies qui sont... qui sont le résultat de leur alimentation qui ne tient pas compte de leur physiologie.
Michel, j'ai bien compris, madame, il y a d'un côté la fertilisation par des produits solubles c'est la fertilisation chimique, et d'autre part il y a la fertilisation par des produits organiques qui sont la fertilisation agrobiologique. Pouvez-vous la définir un petit peu cette deuxième fertilisation?
Eh bien, une caractéristique essentielle de la fertilisation de l'agriculture biologique, c'est qu'elle n'utilise pas les substances solubles.
Voilà.
Parce qu'elles éliminent ce processus justement qui est essentiel et qui permet aux micro-organismes de transformer les substances qui sont dans le sol. Et c'est une des choses essentielles. Et on n'en parle pas souvent. On dit pourquoi. On part contre les substances chimiques. Mais en fait, les substances chimiques sont malsaines parce qu'elles évitent un processus vital. Et on fait la même chose maintenant avec les vaches, puisqu'on leur donne des aliments concentrés, c'est-à-dire que les ruminants, les vaches sont des ruminants, mais les vaches ne peuvent plus ruminer parce qu'on ne leur donne plus les éléments, l'herbe, les pâturages, qui vont leur permettre d'utiliser leur physiologie prévue par la nature. De la même façon, pour les poules, maintenant, on ne leur donne plus du grain, on leur donne des aliments complètement faits, ce qui fait que leur caractéristique de consommer des grains va être modifiée. Et donc maintenant, si vous voulez, tous les organismes vivants, on essaie d'accélérer leur transit, leur fonctionnement, de gagner du temps, de gagner en quantité, parce qu'on essaie de produire les vaches maintenant. Les vaches, elles vont faire 9 à 10 000 litres de lait par an, 9 à 10 000 litres de kilos, alors que des petites vaches comme la vache bretonne, qui vont donner que 2 500 à 3 000 litres de lait, mais elles consomment une alimentation qui est gratuite, qui ne coûte rien et qui correspond à leur physiologie. Donc, si vous voulez, on est en train de modifier, on essaie de productiviser, d'industrialiser tous les processus vitaux, alors qu'en réalité, il y a une autre agriculture qui pourrait être infiniment plus rentable et qui, en tous les cas, permettrait d'avoir des plantes saines. Parce qu'un des gros problèmes aujourd'hui...
Quel est l'effet des produits solubles de la chimie sur les plantes?
Eh bien, le fait, c'est que les plantes vont se gaver de substances solubles. Et donc, par conséquent, elles ne vont pas pouvoir les organiser. Ils vont rester dans la plante. Elle va constituer dans ses tissus des substances solubles en excédent qui n'ont pas été organisées. Et ce sont ces substances qui sont la nourriture des parasites et qui débouche sur les maladies actuelles. Donc à l'heure actuelle, les plantes ont de plus en plus de maladies parce que cela résulte des substances solubles qu'elles n'ont pas pu organiser. Alors les pesticides maintenant, qui sont un des gros problèmes, puisque vous avez entendu parler de l'appel de Paris et de la lutte à l'heure actuelle contre les pesticides, parce qu'on est la France est troisième consommateur mondial de pesticides. C'est quelque chose d'effrayant. Et par exemple les viticulteurs qui ne représentent que 3 à 4% du territoire français, utilisent 25% des pesticides. Alors là, c'est le signe de l'échec de l'agriculture industrielle, parce que en présence des maladies, des parasites qui se développent, eh bien, on utilise des pesticides pour lutter contre ceci. Alors qu'en fait, les pesticides sont eux-mêmes des substances solubles et qui vont donc aggraver la situation.
À quoi sert le pesticide ?
Eh bien, le pesticide sert théoriquement à éliminer la maladie, à régler le problème de la maladie et à tuer le parasite. Alors qu'en réalité, le pesticide est une substance soluble, et donc par conséquent, plus on va mettre de pesticides, plus la plante va être malade. Parce qu'il y a Francis Chaboussou, qui était membre du conseil scientifique de notre institut, de l'IRAB, qui a mis en lumière le fait que les parasites se nourrissaient de substances solubles. Alors donc, autrement dit, on va asperger les plantes de substances solubles en pensant qu'elles vont tuer les parasites, alors qu'au contraire, ça va augmenter leur potentiel biotique. Donc plus on met de pesticides, plus les plantes vont être malades. Mais ceci n'est pas une théorie qui n'est pas divulguée.
Alors tout ça, c'est, vous nous dites, voilà ce qui se passe, et je suppose que vous n'êtes pas la seule à l'avoir constaté, c'est quelque chose qui est public, c'est patent, c'est connu.
Eh bien, c'est-à-dire que je constate à l'heure actuelle que dans les écoles d'agronomie, on continue d'enseigner la lutte par les pesticides, et même dans l'agriculture biologique, on n'utilise pas de pesticides chimiques, mais on utilise des moyens de lutte. Or moi, un des points essentiels, si vous voulez, de la recherche, des expérimentations que j'ai fait dans l'IRAB, c'est qu'en fait, il ne faut pas lutter contre les parasites, il ne faut pas lutter contre les maladies, il faut se poser la question pourquoi elles arrivent. Elles résultent d'un déséquilibre. Et en agriculture biologique, on lutte quand même, mais on lutte d'une façon biologique et biodégradable. Et moi, je pense qu'en ayant une approche différente, en tenant compte des processus naturels, des phénomènes naturels, eh bien, on peut arriver à reconstituer une santé parfaite de la plante, parce que c'est la santé qui est l'état naturel. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la vigne est un, même en agriculture biologique, c'est, on traite toujours parce qu'on a peur des maladies. Il y a quantité de maladies, il y a le mildiou, il y a l'oïdium, et maintenant il y a une nouvelle maladie qui s'appelle la flavescence dorée, qui est probablement, dit-on, incurable. On ne laisse même pas faire des expériences dans ce sens. Or, en réalité, sur la ferme expérimentale que je cultive dans notre institut dans le Vaucluse, eh bien, j'ai beaucoup de vignes et je n'ai jamais traité la vigne. Jamais, même par les moyens biologiques autorisés.
Aucun traitement.
Jamais un seul traitement. Et cette vigne est impeccable. Elle donne des jus de raisin qui sont délicieux. Depuis 2 ans, j'ai même fait du vin qui est considéré comme un vin, une réussite. Et je ne suis pas œnologue. Donc ça débouche sur quelque chose d'essentiel.
On dit que la vigne a besoin de souffrir pour donner du bon vin.
On dit qu'elle a besoin de souffrir. C'est vrai qu'une terre trop fertile n'est pas favorable à la vigne, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la vigne, malgré tout, elle a des problèmes de santé, elle a des maladies qui l'attaquent, des parasites qui l'attaquent, et les agriculteurs sont terrorisés par ces questions. Or, sur la ferme expérimentale, je n'ai jamais une maladie, je n'ai jamais traité. Donc, par conséquent, ça veut dire qu'on peut maîtriser la situation.
Mais alors, justement, vous nous dites, on peut maîtriser la situation, vous nous faites un portrait des inconvénients, et c'est le mot est faible, de l'utilisation des pesticides, des engrais, etc., notamment en liquide. Et vous nous dites, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, mais derrière, il y a une volonté, il y a bien quelqu'un qui conduit cette politique criminelle ou suicidaire. Comment ça fonctionne? Comment peut-on convaincre un paysan de faire quelque chose dont une simple conversation de 10 minutes avec vous va le convaincre que c'est une folie?
Eh bien, le paysan, il est comme Saint Thomas, il veut constater, il veut voir. On a tellement dit aux paysans qu'ils étaient dépassés et qu'il fallait industrialiser, qu'il fallait utiliser les produits chimiques, que maintenant ils sont enfoncés dans le système. Ils sont enfoncés dans le système et maintenant ce n'est pas facile de leur dire qu'il faut faire machine arrière ou qu'il faut renverser la situation. Mais alors, ce que je fais, c'est que quand les paysans viennent sur la ferme expérimentale, quand ils voient la vigne qui est magnifique, le raisin qui est magnifique et qu'ils voient qu'il n'y a pas de traitement, ben là, ils commencent à se poser des questions parce qu'ils disent il y a vraiment, effectivement, un résultat. Alors, j'ai aussi... Alors, la qualité, c'est l'aboutissement de cette maîtrise de la plante, de la santé de la plante. Ça débouche sur une qualité exceptionnelle. Alors, j'ai une capacité de conservation des fruits. Je vous ai porté ici, d'ailleurs, pour vous donner une idée de la capacité. La capacité de conservation d'un fruit, ça donne la mesure de sa qualité. C'est une définition que je propose aujourd'hui, qui est quelque chose de neuf. Eh bien, je vous ai porté ici une confiture que j'ai fait en 1994. Vous voyez,
oui, il y a 12 ans.
Septembre 94. Elle est crue, c'est-à-dire elle n'a pas été, elle n'a jamais été cuite, c'est simplement le fruit qui a été broyé. Ouais. Et il y a seulement 15% de sucre. Je ne sais pas si vous la sentez, si vous la goûtez.
On la voit ici, elle a l'air d'être de datée de ce matin. Enfin, elle est,
ben voilà.
Il n'y a pas la moindre trace de
talage, de moisissure. Elle
a 12 ans, talage,
elle a une saveur
de...
Oui. À faire goûter.
Oui, je vais goûter. Alors ça, on ne le verra pas, on ne pourra pas goûter à ma place, mais tant pis, je me réserve ce droit. C'est une merveille, oui. C'est une merveille. Alors là, je vous la recommande. Hein.
Alors, vous voyez, alors ça...
Ah, puis c'est la confiture. C'est une compote, en réalité, plus qu'une
mais
confiture.
Oui, mais oui, mais c'est cru. C'est cru, ça a 12 ans. Et, et regardez, ce n'est même pas sous vide, ni rien du tout.
Ah non. C'est incroyable.
Alors,
en même temps, on voit aujourd'hui... Il y a un reproche qu'on fait aux légumes aujourd'hui, c'est que... Il s'abîme pas. Quand vous mettez des tomates aujourd'hui dans votre frigo, ou des pommes, elles peuvent rester 5 jours, 10 jours, 15 jours, 3 semaines, on a l'impression que, bon, quand on les goûte, ça n'a aucun goût, mais l'aspect extérieur reste intouché, et on sait bien que c'est parce qu'on les irradie, enfin on leur fait quelque chose pour tuer toutes les cochonneries, tous les parasites, les bons. En réalité, on en fait des espèces de caricatures de fruits, de fantômes de fruits. Ça ne vit plus, tout ça.
On en fait surtout des produits qui ne contiennent plus les substances indispensables à nous maintenir en bonne santé.
Tandis que ça, c'est très vivant.
Il y a un médecin qui a étudié la question, il a dit que c'est plus qu'un aliment, il dit que c'est un véritable médicament, il a donné une idée d'un certain nombre de maladies qu'il pense qu'il pourrait guérir. Il y a des médecins aussi qui ont pensé qu'avec les jus de raisin muscat que je fais, eh bien, on pourrait guérir les diabétiques. Alors qu'en réalité, les diabétiques, ils fuient le sucre. Mmh. Mais c'est une autre, parce que ça rétablirait des processus. Autrement dit, des aliments qui sont de qualité vont complètement modifier les processus digestifs dans le corps humain, et donc ils vont rétablir des maladies qui sont toutes les résultats de carences dans les aliments.
Alors, pardonnez-moi de revenir à ma question, mais sachant ça, goûtant ça, voyant vos fruits là... Comment expliquez-vous que les gens, que les agriculteurs, que les paysans et que les consommateurs ne disent pas, enfin c'est pas possible, on est en train de nous empoisonner, alors qu'il y a des choses comme ça qui sont la démonstration qu'on peut faire aujourd'hui encore des produits de grande qualité, qui nous manque, qui nous conduit à... Quel est le système de bourrage de crâne qui fait qu'on va choisir une tomate, non pas en fonction du goût qu'elle peut avoir, mais en fonction du fait qu'elle est parfaitement ronde, qu'elle ne présente pas la moindre tache, la moindre talure, et éventuellement qu'elle a absolument aucun goût, d'ailleurs. Comment on nous amène à ça ?
Eh bien, écoutez, mais je pense que même au niveau de l'agriculture biologique, il y a un problème, parce que le cahier des charges de l'agriculture biologique n'est pas suffisamment clair, il n'a pas de pratique impérative. Et moi, j'ai mis au point pour l'IRAB un cahier des charges qui comporte des pratiques impératives. Et là, le cahier des charges à l'heure actuelle de l'agriculture biologique, il donne une liste de produits qui sont autorisés, les autres sont interdits. Et à l'intérieur de cela, eh bien, les agriculteurs, ils prennent ce qui est disponible, ce qui est le plus facile ou ce qu'ils croient être bon. Mais on ne leur a pas enseigné tous ces processus. Et c'est pourquoi j'ai été amenée à mettre en place des stages de formation pour expliquer que les résultats que j'avais, parce que ces résultats que j'ai, il n'y a pas beaucoup, même en agriculture biologique, ce sont des résultats qui ne sont pas fréquents, parce que je dirais qu'il y a de l'agriculture biologique qui est légale, qui correspond à la réglementation, et puis il y a l'agriculture biologique qui est une qualité complètement différente et qui permet donc de retrouver la santé et qui correspond également à des plantes qui ne sont pas malades. Les plantes ne sont pas malades, les fruits ne tombent pas avant maturité. Vous savez qu'il y a des problèmes maintenant, on voit souvent les fruits qui ne sont pas mûrs. Alors moi j'ai fait une enquête, je me suis dit, mais pourquoi ne laissez-vous pas les fruits mûrir avant de les vendre dans le commerce? Et j'ai découvert qu'on les cueillait avant maturité parce qu'on avait peur qu'ils pourrissent ou qu'ils tombent avant. Or, sur les arbres fruitiers de ma ferme expérimentale, eh bien les fruits restent jusqu'à maturité et parfois même, ils vont rester des mois avec. J'ai trouvé des figues qui s'étaient séchées comme les figues turques au mois de décembre, 4 mois après, sur la ferme. Et j'ai pris des photos, je peux pas, on est dans une émission de radio, je ne peux pas les montrer. Mais les figues sont complètement caramélisées, elles sont complètement translucides parce qu'elles se sont conservées, parce qu'elles avaient un taux de sucre qui était complètement différent. Le taux de sucre est un élément déterminant des potentialités, des qualités gustatives d'un aliment. Et bien maintenant, il n'y a plus de sucre parce que la fertilisation n'est pas celle qu'il faut. Alors la fertilisation est une question clé et sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé et c'est pourquoi les personnes, quand ils voyaient les résultats, des confitures, des choses comme ça, ils me disaient, mais ce qu'on veut nous, c'est obtenir des résultats comme ça. Comment faites-vous ?
Alors j'allais vous poser la question parce que l'agriculture moderne, je dirais, que nous voyons tous, on a l'impression que elle ne nécessite pas une connaissance très pointue. On a l'impression qu'il suffit d'appliquer les modes d'emploi des sacs et des tonneaux d'engrais ou de pesticides. On mettait 30 tonnes de cuillerées par litre ou tant de bon et puis verser ça comme ça. Tandis que le métier, enfin que ce que vous faites vous dans votre ferme expérimentale, on sent bien que ça nécessite une connaissance aiguë de la terre, du rôle des saisons, des différentes espèces, des différentes essences d'arbres, des différentes espèces de fruits.
Des variétés, des espèces
oui, c'est ça.
Qui sont adaptées
donc
au terroir.
Ça nécessite une, voilà, l'adaptation terroir, au terroir, au climat local, etc. Et ça nécessite donc un enseignement très long, il faut une expérience de longue venue.
C'est un regard, c'est surtout en fait une autre approche, si vous voulez. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont pensé que j'avais une recette, que j'avais un truc pour avoir des choses comme ça. Parce qu'on est à la période du miracle médical ou le médicament, la vaccination, etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est un autre regard que je porte sur la plante. Autrement dit, je comprends ces mécanismes, je me mets à la place de la plante, je remets en valeur tous ces processus, j'étudie je tiens compte des phénomènes naturels et je ne la violente pas, je ne la force pas. Jamais je ne lutte.
Quand vous dites je me mets à la place de la plante, ça suppose que vous la connaissez parfaitement, que vous l'avez longuement étudiée. Alors, Michel Delière qui vous a amené ici, qui a fondé ce groupe du néo-paysan de tradition, enfin cette association, ce centre ou ce cercle, je sais pas comment il faut dire. Ce mouvement, voilà, c'est plus un mouvement d'ailleurs. Je ne sais pas dans le cas de Michel, mais il y a des gens qui vont le rejoindre, qui seront à peu près aussi agriculteurs que moi ou aussi paysans que moi, parce qu'ils auront été portés par l'envie de changer de vie, par l'envie de changer de milieu, etc., et par l'envie de changer d'environnement et de voisinage et d'alimentation et tout ça. Et ils vont, est-ce qu'ils ont la capacité? Enfin, est-ce qu'il vous paraît vraisemblable, plus exactement, que des gens comme ça, mettons un garçon qui aurait 40 ans, avec une petite famille, qui a été jusque-là comptable dans une entreprise et qui dit, moi, j'en ai assez, je jette tout par-dessus les moulins et je vais m'installer dans la communauté, plus exactement dans le mouvement à Saleran, là-bas, et c'est ça, Saleran, c'est bien.
Saleran.
Et puis, je vais devenir fermier pour mener enfin une vie qui m'intéresse. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ou est-ce que ça vous paraît...
C'est tout simple. Madame Florian organise des cours de formation.
C'est pour ça que j'ai mis en place ces stages de formation. Parce que c'est un autre regard. Et je pense que, en fait, si vous voulez, ce qui va fondamentalement différer dans les méthodes que je préconise et que je pratique, moi, c'est que nous allons réhabiliter notre sensibilité, nos sens. À l'heure actuelle, c'est du mécanisme, tout est automatique, ce sont des recettes, comme vous l'avez dit. Et donc, la capacité de percevoir de sentir, de voir le regard. L'agriculture que je pratique est une agriculture dans laquelle le regard de l'agriculteur, du jardinier est essentiel. Quand je parcours la ferme, dans la journée, je fais une cinquantaine d'observations, je fais une synthèse de tout ça. C'est cette connaissance que je vais réhabiliter. Il faut réhabiliter les regards, les sensibilités, les savoir-faire. Ça, c'est une chose essentielle qui est en train de disparaître. Et le monde rural était à l'origine un monde de savoir-faire, de connaissances. Et on est en train d'éliminer toutes ces choses. Alors c'est essentiel.
Mais si cette élimination a eu lieu, c'est parce qu'il existait de toute évidence, depuis déjà longtemps, une détestation de la paysannerie de la part des classes dirigeantes à partir de la fondation de la République. S'il est évident qu'il y avait une détestation et la République a voulu détruire la paysannerie et a réussi. Il n'y a plus de paysans maintenant, il y a des agriculteurs industriels qui ne sont pas des paysans.
Moi j'étais très frappé, j'ai toujours été obsédé par ce que j'ai vu quand j'étais gamin, quand j'avais 6-7 ans, c'est-à-dire au début des années 50. C'était ce spectacle. Enfin, à la maison, on recevait Sélection du Reader's Digest, et ma mère lisait, elle, ou Marie-France, Marie-Claire, etc., des journaux de femmes à l'époque. Et je me souviens, c'était fascinant à lire pour un enfant, parce que les images étaient... Il y avait des jolis dessins, et il y avait des textes qui étaient faciles à lire et faciles à comprendre. Mais le souvenir que j'ai, c'était que quand on présentait le modèle paysan, il y avait toujours deux modèles qui étaient opposés. Il y avait le modèle paysan français. Alors on voyait des photos en noir et blanc qui montraient une cour de ferme avec le tas de fumier devant la porte de la cuisine et des bonnes femmes en calicot qui marchaient en sabots dans la boue et dans le purin. Et puis l'autre page, j'invente rien, hein, c'était la vie d'un paysan aux États-Unis. Et là, on avait le beau mec américain avec la canadienne, la chemise à carreaux, la casquette à oreilles, ses deux fils qui étaient des gars baraqués, deux filles qui étaient des jolies filles, sa femme qui était dans sa cuisine américaine hyper équipée, et devant la maison, il y avait la voiture qu'on appelait la station wagon, c'est-à-dire la voiture avec les montants en bois, vous souvenez de ces voitures américaines superbes. Et là, on était fascinés. Et alors, il y avait toujours le tracteur. Et puis, on voyait des étendues immenses. On voyait qu'il cultivait, lui, tout seul, je sais pas, 550 hectares de blé. Alors, on se dit, voilà, ça, c'est l'avenir de l'agriculture. Tandis que le modèle français de l'agriculture, c'est des pouilleux qui vivent dans l'ordure, dans le purin et le fumier jusqu'aux oreilles, et qui font des enfants idiots parce qu'ils mettent du calva dans le lait. C'était ça qu'on nous vendait à longueur de journée. Et surtout qu'on vendait aux femmes. Et aux jeunes filles.
On pourrait demander à Mme Florian s'il existe encore des terroirs.
Bon, on va parler des terroirs. Ensuite, c'est très important. Mais je voudrais répondre à cette observation que vous faites, parce que ça va me permettre de dire quelque chose d'absolument essentiel à ce sujet. On compare les agriculteurs américains aux agriculteurs français. Mais d'abord, sachez qu'aux États-Unis, ils ont 4 hectares par habitant. Alors qu'en France, on n'a déjà qu'un hectare. Et dans des pays comme l'Europe du Nord, on a un demi ou un quart d'hectare. Alors donc, comparer les méthodes, la prospérité des Américains à la prospérité des agriculteurs français, ça n'a pas de sens parce qu'ils ont ces espaces infinis. Ils sont arrivés sur des terres vierges qu'ils ont massacrées en seulement un siècle. Parce qu'il y a eu, en 1935, il y a eu des destructions, des tempêtes de sable extraordinaires. Donc en seulement un siècle, ils ont tout détruit.
La raison de la colère, c'est ça le
ils avaient des terres d'extraordinaire fertilité, et puis ils ont mis les machines là-dedans. Alors donc, comparer la prospérité de ça, je voudrais bien les voir, ces Américains, avec les terres que nous avons et les surfaces que nous avions. Alors on a voulu substituer le système américain à des territoires qui avaient des paramètres complètement différents. Et en fait, ça a débouché sur un échec complet, parce qu'on ne peut pas utiliser la même façon. Et les Américains étaient des gens qui ont toujours eu des faibles rendements sur les immenses étendues. Et nous, on est obligés de faire des rendements plus importants, parce que la population à nourrir, et c'est pas du tout la même chose. C'est un pays qui avait un mètre d'humus quand ils sont arrivés là-bas, des terres d'une fertilité. Moi, j'ai vu, ils avaient la terre noire qu'on appelle le Tchernozem. Moi, j'ai vu en Floride, en plein mois de septembre, dans la culture de la canne à sucre, eh bien, ils avaient des terres noires comme de l'ébène. Et il y avait dessus, à la surface, parce qu'il y avait des chaleurs très très fortes à ce moment-là, il y avait les engrais chimiques qui remontaient à la surface. qui se séchait et c'était blanc. On aurait pensé que c'était de la neige. Et ils font culture de canne à sucre sur culture de canne à sucre. Ils peuvent se permettre n'importe quoi parce que quand la terre est fatiguée, ils vont plus loin. Ils tournent. Mais nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. On est obligé de rester sur nos terres et donc on ne peut pas avoir les mêmes.
Mais c'est l'époque où Pisani avait lancé le fameux projet de l'agriculture modernisée avec les agropoles, vous vous rappelez de ça, où il disait il faut que les ouvriers vivent dans des tours au milieu des... Enfin, il n'y aura plus de paysans, il y aura des ouvriers agricoles qui vivront comme des ouvriers des usines dans des tours au milieu des champs et le matin ils descendront, ils prendront leur voiture pour aller travailler dans les champs et le soir ils rentreront. C'était monstrueux comme projet. C'est monstrueux. Ces gens sont des démons.
C'était aussi les communistes qui faisaient ça.
Oui, mais c'est ça. Pisani n'était pas communiste, mais c'est une assez bonne imitation quand même dans l'ensemble.
Mais alors à ce sujet, je vais donner un chiffre et qui va donc ouvrir sur des objectifs majeurs de mon institut. C'est qu'en fait, à propos des Américains qui ont des surfaces à ne savoir qu'en faire, vous savez, quelle est la surface disponible par famille à l'heure actuelle sur la planète? Eh bien, c'est 1,5 hectare. Alors, faire la culture des Américains avec leurs machines, qui travaillent sur 1000 hectares comme en Australie, ça peut être bien peut-être pour qu'ils fassent leur exportation de céréales ou pour nous envoyer ça pour nourrir nos bêtes, nos vaches, et pour qu'elles soient malades, parce qu'on leur substitue toutes ces céréales qu'ils font là-bas, et on va les donner aux nos vaches qui ne sont pas faites pour manger ça, mais qui doivent manger de l'herbe.
Et en plus, on leur donne ensuite, ça leur permet de vendre des injections qu'on est obligé de faire aux vaches, voilà, pour qu'elles puissent supporter cette nourriture.
Ils rattrapent le chose par tous les côtés. Alors donc, par conséquent, la question d'une agriculture productiviste qui travaille sur des surfaces énormes, ça n'est pas possible. Ça, c'est possible pour quelques pays, mais ça n'est pas possible pour l'avenir de l'humanité. Et de ce point de vue-là, la ferme de mon institut, qui n'a que 1,5 hectare, elle a, en dehors aussi de ses capacités de démontrer la viabilité de la qualité de la production, elle a aussi l'objectif de démontrer que sur une petite surface, on peut s'en sortir. Et à travers là, on a une approche complètement différente et on permet de réoccuper l'espace rural. Parce que l'avenir, demain, ça va être... Je constate qu'il y a au moins 70% des Français, on donne des chiffres peut-être même encore plus importants, qui s'intéressent au jardinage. Parce que les gens dans les villes, ça les rend fous. Ils ne peuvent plus supporter. Ils attendent le week-end. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils vont retrouver la terre, ils vont retrouver des plantes. L'homme ne peut pas s'écarter de la nature. Il a besoin de la connaître, de la comprendre, de l'utiliser. Il a besoin de cultiver, de se pencher sur les plantes. Eh bien, à ce niveau-là, le système américain est un système productiviste. C'est un système pour un pays comme l'Amérique, mais ça n'est pas valable. Et à l'heure actuelle, nous avons des quantités de pays où les gens meurent de faim parce qu'on a imposé des systèmes qui ont complètement déséquilibré leur économie, c'est le cas de l'Afrique, alors qu'ils avaient des cultures vivrières avant qui leur permettaient de survivre. Et dans le système industriel, les gens meurent de faim.
Alors, on va écouter une annonce très importante, mais avant, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que la surface de terre disponible aujourd'hui, pour l'agriculture, c'était 1,5 hectare par être humain sur la planète.
Par famille.
Parfait. Pas par être humain, parfait.
Non.
Alors, combien peut nourrir 1,5 hectare d'individus ?
Alors là, on va toucher à un problème essentiel, parce que d'abord, de quoi se nourrit-on ? Aujourd'hui, vous constatez une chose, vous avez beaucoup de personnes qui prennent de l'embonpoint parce qu'elles mangent des aliments et elles ont encore faim, parce qu'elles sont plus nourries. Elles sont plus nourries. Il y a eu des personnes qui sont venues du ministère de l'Agriculture, qui sont venues sur notre ferme expérimentale dans le sud. Et ils ont goûté les fruits en pleine saison. Et ils ont fait une observation fort intéressante. Ils ont dit, mais quand on a mangé 3 de vos fruits, on n'a plus faim. Et des gens qui étaient complètement habitués au système classique, beaucoup de gens sont habitués, ils mangent parce qu'ils ont faim. Quand ils sortent de table, ils ont encore faim parce que les aliments ne les ont pas sustentés, parce qu'ils ne contiennent pas les vitamines, les oligo-éléments indispensables. Et regardez maintenant. Quelle est la médecine d'aujourd'hui ? C'est une médecine de compléments alimentaires. Les pharmacies ne vendent plus que des compléments alimentaires.
Oui, c'est ça,
l'explosion des compléments alimentaires. Alors maintenant, on va détruire la santé des gens avec des aliments qui sont carencés, qui sont déséquilibrés. On va les rendre malades avec ces pesticides et des engrais chimiques. Et on va leur donner des compléments alimentaires pour rétablir la santé. C'est complémentaire, c'est quoi? C'est tout ce qui en a supprimé, tout ce qui n'existe plus dans les fruits et légumes qu'ils ont mangés, on va le leur donner séparément, fabriqué par des laboratoires, etc.
C'est exactement ce qu'on fait avec les vaches, quand on leur donne des tourteaux de soja et qu'ensuite on leur apporte des injections de je ne sais quoi pour qu'elles puissent digérer les tourteaux de soja. Les tourteaux étaient vendus par les mêmes réseaux industriels américains qui vendent d'ailleurs les injections qui permettent de supporter les tourteaux. Donc on fait la même chose en fait.
Ben oui,
ouais. Michel.
Donc si j'ai bien compris, madame, parce que vous tombez absolument, vous apportez de l'eau à mon moulin, à savoir que
une petite exploitation
de quelques hectares, 3 ou 4 hectares, peut très bien faire vivre une famille et rentabiliser la vie d'une famille.
Si la qualité est présente, d'abord, il y a un premier point, c'est la viabilité économique. La viabilité économique, c'est quoi? Ça commence par la santé des plantes et la santé des animaux. Parce que dans une comptabilité agricole, si vous avez le poste de traitement, c'est généralement le plus important poste. Si vous commencez à utiliser les molécules, si vous commencez à utiliser les machines pour passer les produits pesticides, et si vous commencez à utiliser le temps, eh bien vous mangez complètement tout votre bénéfice. Donc ce qu'il faut, c'est viser absolument la santé de la plante. Il faut pas, sur la ferme, il n'y a jamais un traitement. Les gens qui sont venus sur la ferme, qui travaillent, qui font les stages, ils voient bien qu'on ne traite jamais. On attache une très grande importance à la fertilité, aux conditions qui vont maintenir la plante en bonne santé ou rétablir la santé. Et ensuite, la plante, elle doit se débrouiller parce qu'elle a la capacité prévue par la nature, si on l'a mis en condition, qu'elle puisse choisir dans le sol les substances dont elle a besoin. Mais ça, alors là, évidemment, c'est un art, c'est une autre façon de faire, et c'est ça que j'enseigne, justement.
On va en parler, si vous voulez, dans quelques minutes. On va écouter le message, Madame Florian, et puis je vous redonne la parole ensuite.
Dimanche 11 juin, fête de la courtoisie. À l'espace Charenton, dimanche 11 juin, de 10h à 19h, des centaines d'écrivains qui se sont exprimés sur Radio Courtoisie vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux à offrir. Des livres dédicacés. Venez à la rencontre de ces auteurs et de toute l'équipe de Radio Courtoisie qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 11 juin, fête de la courtoisie, espace Charenton, 323 bis rue de Charenton, Paris 12e, métro Porte de Charenton. Entrée 15 euros. Entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. Pour nous écrire, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, au stand du Libre Journal du mercredi, mon stand, vous pourrez rencontrer Madame Marie-France Garraud, le docteur Jean-Pierre Masqui, que vous avez entendu il y a à peu près un an et qui venait présenter son travail sur les liens entre la pollution électromagnétique et certaines maladies, le docteur Jean-Claude Oudret, qui a mis au point une méthode pour maigrir, prodigieuse d'efficacité, et qui présentera aussi son livre sur les additifs alimentaires dont il était venu nous parler. Bertrand Aquin, on en a parlé tout à l'heure, Jean-Marc Savary, Arnaud Raffard de Brienne, que vous avez entendu. Il y aura Marc-Claude Loup qui viendra présenter sa revue célinienne. Jean-Baptiste Chaumeil qui viendra présenter le cercle des amis de Jacques Perret, parce qu'il n'y a pas que des gens qui viennent vendre leurs livres, il y a aussi des gens que vous pouvez avoir envie de rencontrer. Vincent Berteret, je crois, sera chez moi, mais j'en suis pas absolument sûr, il sera peut-être aussi chez Anne Brassier, qui présentera son livre. Alors là, je vous en recommande la lecture, parce que je vais l'inviter prochainement. C'est un livre qui s'appelle « Frères réformés, si vous saviez, éphémérite des guerres de religion », et qui remet pas mal les montres à l'heure sur la réalité des antagonismes entre les protestants et les catholiques. C'est assez intéressant, même plus qu'assez intéressant. Éric Lebec, qui présentera Benoît XVI, les défis d'un pape. Georges-Alexandre Imbert, qui est le président de l'association d'aide aux victimes des accidents et médicaments, qui présentera les dangers des tranquillisants par les éditions Dauphin. On l'a reçu il n'y a pas très longtemps. Il a expliqué des choses extraordinaires sur les effets. Alors là, c'est presque de votre ressort, Madame Florian, sur les effets dramatique de certains cocktails de tranquillisants qui rendent d'un seul coup qui font d'un agneau un tigre de Tasmanie. En quelques secondes, des gens deviennent complètement fous, tuent 10-12 personnes et puis s'arrêtent et puis après ils se souviennent absolument plus de ce qui s'est passé. Et j'entendais il y a deux jours qu'une femme passait en procès pour avoir découpé son amant en morceaux avec une hache et avoir déposé les morceaux du susdit dans le jardin. C'est peut-être une forme d'engrais aussi. Et elle dit, écoutez, moi je sais absolument pas ce qui m'est arrivé, voilà, j'ai fait ça, j'ai aucune explication à donner. Et alors, tout le monde s'est interrogé gravement sur le fait qu'elle avait eu un père alcoolique ou une mère je ne sais quoi. Je crois que tout simplement elle avait dû prendre une cochonnerie quelconque. Et j'ai pensé tout de suite à monsieur Humbert. Également Pierre Descaves, qui devrait faire un tour chez nous. Il sera aussi et surtout au stand de Rostelan, mais il viendra peut-être nous voir présenter son livre « Des rêves suffisamment grands ». Qui encore, je continue à trouver, Bernard Anthony peut-être, Elisabeth Excal que vous avez entendu, Irina Pilichuk et Jean-Pierre Fabre qui présenteront leur livre assez effrayant, Chikatilo, Serial Killer Soviétique, vous vous souvenez qu'on les avait reçus, Jean-Claude Hermans qui présentera les religions du livre, Dominique Hérulin, La Grande Piste, et puis Gibier d'État, Dominique Tasso et Guy Prival qui viendront présenter le travail du CEP, du Centre d'études et de prospectives sur la science, Laurent Blancy qui a écrit un bouquin formidable sur les géants dans la Bible et dans l'histoire, et c'est assez troublant ce qu'il raconte, Roger Olindre, La Guerre psychologique, Jacques Herz, L'Histoire assassinée, je suis pas certain qu'il sera à mon stand, mais il sera là, Patrice Serre, Kin, L'extraordinaire histoire de l'empereur Kin plus exactement, il y aura également, pas à mon stand, mais un autre, Michel de Gégeard, dont il faut vraiment que vous lisiez le livre « Chateaubriand, le menteur magnifique », qui est un grand livre. Christina Cosma, qui viendra présenter son livre « La marche hein. ». C'est une incitation à la marche comme élément essentiel de la santé. Et puis, c'est à peu près tout ce que je vois. Il y aura Pierre-Marie, le professeur de piano sans solfège, qui viendra expliquer aux gens qui voudront l'interroger comment il travaille et ça peut être et c'est fort intéressant. En plus, je dois dire que l'excellent Pierre-Marie, il faut le rencontrer au moins une fois dans sa vie parce que ça vous fera des souvenirs. C'est pas quand même quelqu'un de tout à fait banal. Il faut bien reconnaître. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, moi, tout à fait, oui. Hein? Et puis, il est tellement gentil et
il est adorable. Et donc, voilà.
Je saisis l'occasion pour dire que je serai à la fête de Radio Courtoisie.
J'allais vous poser la question. Vous serez là, donc.
Ah oui, moi, j'y serai. J'y serai pour présenter un livre dont j'écris une partie, qui est un livre, l'ouvrage de l'écologie au secours de la vie. Et puis, bon, pour accueillir les auditeurs. Et je serai dans le secteur de M. Guillemin.
Ah, avec Benjamin Guillemin.
Avec Benjamin Guillemin. Ouais.
Où se trouvera également le stand du mouvement néo-paysan de tradition.
Alors, Benjamin Guillemin.
Avec Benjamin Guillemin.
Mes invités, il est gonflé, celui-là. Bon, je suis très content de savoir, Madame Florian, que vous serez à cette fête. J'allais vous poser la question et je suis très content parce que je suis certain, si on en croit les messages qui arrivent, que beaucoup, beaucoup d'auditeurs voudront vous rencontrer vous poser des questions. Donc, vous serez au stand de Benjamin Guillemin.
Je serai là-bas pour présenter les programmes de stage. Mais alors, je vais peut-être donner aussi un numéro de téléphone où les auditeurs peuvent contacter.
On donnera à la fin.
Oui, mais vous pouvez donner tout de suite. Non, donnez-le tout de suite. Comme ça sera fait. On le redonnera tout à l'heure.
Je prends mon papier.
Alors, on peut me joindre. Alors, sur Paris, il y a un jardin expérimental où je fais des stages de jardinage. Et alors, le numéro de téléphone, c'est 01 42 30 97 74.
01 42 30 97 74.
Bon, et l'adresse, c'est 5 Hameau de Boulainvilliers.
C'est tout près d'ici.
Oui, 75 016. Alors, donc, c'est là qu'est le jardin.
Ça, c'est chic comme endroit, dites donc. Hein.
Et bien, il y a un petit jardin,
ouais.
Et dans lequel on plante, et dans ce jardin, il y a de la vigne, il y a des framboisiers, il y a un cerisier, et au cours des. Durant les stages, on travaille dans le jardin, et il y a la partie théorique, et puis on travaille aussi dans le jardin. Alors, il y a le jardin expérimental sur Paris, et puis il y a la ferme expérimentale qui est dans le Vaucluse. Alors, le téléphone, c'est 04 90 60 33 22. Alors, il faut écrire ferme expérimentale de l'IRAB, IRAB IR2AB, 84-870, L'Oriole du Comtat.
L'Oriole du Comtat.
Voilà, voilà.
Ferme expérimentale IRAB.
Là-bas, c'est la IRAB. Ferme expérimentale.
Institut de recherche agronomique.
Institut de recherche en agriculture biologique, c'est ça. Voilà. Et donc sur Paris, c'est le jardin expérimental et là-bas, c'est la ferme expérimentale. Donc les cours pour les agriculteurs ont lieu sur la ferme, ils durent plus longtemps, mais c'est le même contenu pour les agriculteurs, mais c'est plus approfondi.
Je ne sais pas si c'est les fruits que vous avez apportés, mais il y a une odeur de campagne qui s'installe dans ce studio, c'est extraordinaire.
Il y a des cerises, nous sommes en plein récolte de cerises.
Ah oui, il y a des cerises là. Des
merveilles.
Qu'est-ce que c'est, ces cerises noires, comme des yeux.
Et dans lesquelles je vais faire des...
On va essayer quand même, on va en goûter une. Tenez, Victoria, dites-moi, moi je goûterai après l'émission, parce qu'après je vais bafouiller. Ça doit laisser les lèvres noires, ça.
Oui, oui, oui.
Mais comment s'appelle-t-elle?
Ça, cette variété, c'est de la Early River, et ça, c'est de la Burla.
La Burla, c'était la cerise de mon enfance, ça, la Burla.
Alors, des cerisiers, il y a jamais, elles sont magnifiques, il n'y a pas une maladie, pas un ver, rien du tout. Les fruits ne sont pas éclatés, ils sèchent au pied de l'arbre qui tombe, et il y en a quelques-unes d'ailleurs.
Comment les protégez-vous des oiseaux?
Ben, il n'y a pas tellement de problèmes d'oiseaux, peut-être parce qu'il y en a pas mal, mais il n'y a pas tellement de problèmes de dégradation par les oiseaux. Mais quand ils tombent au pied de l'arbre, et ben ils sèchent. Vous les retrouvez un mois, deux mois après, et ça fait des cerises séchées. J'ai des cerises séchées qui ont 7 ans. J'en ai qui ont 7 ou 8 ans, et elles sont toujours moelleuses.
Incroyable.
Même les cerises acides.
Mais c'est de la magie, vous nous dites, là.
Eh ben, c'est un travail différent. C'est ça, justement. C'est une autre approche. Jamais je ne lutte. Je m'efforce de comprendre les processus de la nature qui sont extraordinaires. Et plus j'approfondis la question, plus je me rends compte que la recherche agronomique, elle est dans une mauvaise voie à l'heure actuelle parce qu'elle prétend tout répondre, elle prétend tout résoudre, et en fait, elle met de côté des phénomènes fondamentaux. Et le résultat, c'est que j'ai pas de maladies, j'ai pas de parasites, j'ai des fruits qui sèchent, qui se conservent, j'ai des fruits qui pourraient être des fruits séchés qu'on normalement ne devrait pas obtenir ici parce qu'on est beaucoup trop au nord. Et j'ai des figues séchées comme en Turquie. Des abricots séchés comme en Turquie. Qui se conservent depuis des années.
Pouvez-vous parler un petit peu de la fertilisation de ces fameux arbres fruitiers?
Eh bien, la fertilisation de ces arbres fruitiers est complètement différente. Et justement, l'élevage est l'élevage des herbivores.
Je suis en train de me régaler.
Vous ne pouvez pas continuer.
Vous puissiez goûter parce que c'est quand même...
La Burla n'a aucun rapport avec celle que j'achète près de chez moi.
C'est vraiment des merveilles, ça. Okay.
Alors ça, ce sont les méthodes que j'ai mis au point qui permettent d'obtenir ça. Et alors, la plantation joue un rôle très important. J'ai mis au point des méthodes de plantation. Et puis ensuite, quand la fertilisation est bien faite, vous en avez pendant 3 ou 4 ans, je n'ai même pas besoin de la refaire, pas de soins, rien du tout, parce que j'ai rétabli... une vie dans le sol, un certain nombre de conditions, et la plante peut faire elle peut s'alimenter elle-même.
Mais comment vous y prenez-vous pour fertiliser exactement?
Alors, il y a une chose qui est essentielle, évidemment, c'est que la présence des herbivores, les vaches, les chevaux, c'est nécessaire. Si on croit qu'on peut se passer de ces choses-là, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, c'est majeur. Et à l'heure actuelle, l'agronomie classique pense qu'elle peut s'en passer. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, l'élevage est très important. Mais l'élevage, à l'heure actuelle, le petit élevage qui permet de produire un fumier de qualité, est en disparition. Il n'est pas aidé du tout. Et les élevages, les grands élevages, les bêtes sont sur des caillebotis.
Oui,
elles sont mal alimentées. Et elles font des déjections. Lisier, on ne peut rien en faire. On ne peut pas faire du fumier.
Empester le voisinage.
Voilà. Polluer les nappes phréatiques. Ouais. Parce que dans ma région, sur la commune autour de Carpentras, où nous sommes, eh bien, on a fait des études sur la nappe phréatique. On a 350 mg de nitrate par litre. C'est-à-dire beaucoup plus que la Bretagne, qui est pourtant marquée en rouge. Et donc, ça, c'est le système actuel. Alors, comment fera-t-on quand les eaux seront polluées, qu'on ne pourra plus ne pourra plus boire l'eau? Alors, vous voyez, on est dans une agriculture qui est en train de détruire tous les éléments indispensables au maintien de la santé et à la vie humaine.
Alors, Madame Florian, on va donner la parole aux auditeurs qui ont des commentaires, des questions. Alors, Victoria, allez-y. Pendant ce temps-là, je vais continuer à manger des burlas, moi.
Bravo à Serge Lebequel. Votre invitée est très intéressante. Alors, la voiture, vous signale.
C'est Michel Delière qu'il faut remercier.
La voiture américaine évoquée tout à l'heure est une Woody.
Voilà, Woody, exactement. Le bois, le boisé.
Un auditeur nous dit, j'ai planté récemment un abricotier. Pour la première fois cette année, il a formé des fleurs et des fruits. J'avais autant de joie que lors de la naissance d'une naissance. J'étais naguère citadine. Il y avait une dizaine de petits fruits qui grossissaient presque à vue d'œil. Et maintenant, ils sont mangés par des chenilles. Qu'aurais-je pu faire?
C'est un problème.
C'est peut-être un peu long comme réponse.
C'est un problème de fertilisation. C'est tout le processus qui est à. Les chenilles viennent sur des plantes, comme les parasites, sur des plantes dans lesquelles il y a des problèmes. Oui. Normalement, elles ne doivent pas venir. C'est un déséquilibre de la plante.
Je suis un responsable équestre. Chez les chevaux, la disparition de la distribution de la nourriture conventionnelle, avoine et orge, remplacée par des granulés, font que la dentition se transforme et qu'on est obligé maintenant tous les ans, pour tous les chevaux, de faire venir des dentistes équins. Métier nouveau. Et souffrance de l'animal.
C'est incroyable.
Modification de l'alimentation, on ne respecte plus la physiologie. Voilà.
Madame, depuis quelques mois, on peut lire sur l'étiquette de la majorité des vins français et sur la totalité des vins blancs et rosés la notion « contient des sulfites ». Ceci n'existait pas auparavant. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de la toxicité éventuelle des sulfites ? Je crois que vous avez déjà...
Le vin a toujours contenu des sulfites, non ? On a toujours traité le vin avec du...
On est en train d'essayer de faire une viticulture de qualité... Plus ordinaire pour essayer de baisser les prix, alors qu'en réalité, le problème, c'est pas un problème de prix. Il faut, si vous respectez la typicité et que vous avez une bonne fertilisation, eh bien, ça changera tout. Parce qu'en fait, là, on essaie de donner des solutions à la crise viticole. Mais la crise viticole, elle est parce que là, il y a une dérive industrielle de la production du vin et aujourd'hui, le vin n'a plus de goût. Les œnologues sont obligés d'entrer pour faire du vin. Moi, je fais du vin. Les gens s'étonnent. Je suis pas œnologue. Je fais du vin qui réussit. Ouais. Parce que la clé, c'est dans les levures.
Oui, on a fait du vin pendant des millénaires sans œnologue. Je pense qu'on...
La prochaine fois, vous amènerez une bouteille.
Oui, mais les auditeurs ne pourront pas goûter.
À la suite d'une expérience ancienne, j'ai interdit l'accès du vin, fût-il le meilleur du monde, pendant l'émission. Parce que j'ai le souvenir d'une émission qui était un petit peu limite. Avec mon camarade ADG, Dieu et son âme, et je suis sûr qu'il l'a. Enfin, j'espère qu'il l'a vraiment. Et donc, on a mis un terme à ces libations pendant les émissions. C'est assez incompatible la radio et le bon vin.
Alors justement, les terroirs jouent un rôle essentiel pour faire une qualité. Et pour qu'une petite ferme s'en sorte, il faut de la qualité. Il faut de l'originalité, de la spécificité. Et puis, il faut aussi encourager la transformation des produits, la valorisation des produits. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire mettre au point des recettes particulières, faire des jus de fruits, des vins de terroir, des confitures, des recettes particulières. C'est là que l'imagination, la créativité peut rejouer un rôle important et permettre la valorisation.
Il y a un marché pour ça. Vous les vendez, les produits de votre ferme, ou vous les distribuez? Comment ça se passe?
Je demande. Quand les gens ont goûté, ils veulent tout de suite acheter. Voilà,
oui, c'est ça.
J'ai pas. Alors ils me disent, mais où est-ce qu'on peut les trouver? Je pense que j'aurais aucun mal à vendre des quantités très importantes. De plus en plus, les gens recherchent ça. Je crois que c'est la qualité de plus en plus recherchée.
Vous prêchez à un converti, mais pensez-vous que Bruxelles vous laissera agir? Je vous conseille très fortement de ne sortir qu'accompagné de gardes du corps.
c'est pas faux d'ailleurs.
D'autre part, vous risquez, après vos déclarations, de subir les mêmes ennuis, c'est-à-dire tous les contrôles possibles et inimaginables qui se sont abattus sur un monsieur qui est venu nous en parler du scandale de la fausse listeria.
Oui. Mais il y a autre chose, il y a une arme absolue en ce moment, c'est l'accusation de secte. Ça, chaque fois que quelqu'un essaye de développer un groupe qui fait de l'agriculture biologique ou...
Oui,
alors on dit, mais c'est une secte. Oui. Alors quand on a dit le mot c'est une secte, c'est comme quand on a dit il est d'extrême droite, c'est fini, on peut vous faire tout ce qu'on veut, on a tous les droits.
Pour déconsidérer, oui. Mais alors justement, je voulais vous dire une chose qui est importante, c'est que à la suite de l'enseignement et des stages que je fais maintenant depuis 2 ans et un certain nombre de stagiaires qui l'ont suivi, qui ont été très intéressés, une association s'est créée à leur initiative pour faire connaître l'action que je mène et elle va avoir prochainement un site sur Internet. Et cette association s'appelle Culture et Fumure. Et donc, par conséquent, c'est pour faire connaître, pour aider les gens qui voudraient venir vers ces méthodes-là. Et donc, les stagiaires disaient, mais comment se fait-il que ça ne soit pas plus connu, une action comme ça? Donc, vous voyez, c'est une initiative qui vient de se mettre en place et qui va contribuer à
alors, ça, on en fera état quand elle sera en route. Ce que je vais vous demander, pour finir, c'est de nous rappeler votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone où on peut vous joindre, où on peut avoir des renseignements et des dates et des renseignements sur l'organisation des stages. Et ensuite, je demanderai à Michel de rappeler l'adresse à laquelle on peut le joindre si on s'intéresse à son mouvement du néo-paysan de tradition. Alors vous, Madame Florian?
Alors le téléphone sur Paris, c'est 01 42 30 97 74. Donc ça, c'est le jardin expérimental. Je redonne l'adresse aussi.
5 hameaux de Boulainvilliers, dans le 16e.
Oui, c'est ça. Et alors donc...
La ferme expérimentale.
Alors la ferme expérimentale de l'IRAP, c'est dans le Vaucluse. Alors, c'est 84 870 à L'Oriole du Comtat. Et le téléphone, c'est 04...
Comment vous l'écrivez? L'Oriole, elle a eu...
L-O-R-I-O-L.
Du Comtat.
Du Comtat, c'est O-M-T-A-T.
Comtat, te venez, c'est...
Et le téléphone, c'est 04 90 60 33 22.
Michel, vous avez moins d'une minute pour donner votre adresse et votre numéro de téléphone.
Oui, c'est...
Mouvement néo-paysan de tradition, Le Refuge, 77 540 Bernay-en-Brie, téléphone 01 64 25 61 57.
Merci beaucoup Michel de nous avoir amené Madame Florian. Merci Madame Florian, c'était passionnant. Enfin, moi j'ai trouvé ça passionnant, j'espère que les auditeurs sont du même avis. Je ne serai pas là, oui, vite.
Le rosaire pour la vie, le 3 juin, à 16h15 précise, à Notre-Dame, devant l'hôtel du Saint-Sacrement, avec M. l'abbé Guillaume de Tannouarn. Renseignements auprès de Françoise Le Tourneur, 01 42 22 96 96.
À la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, à dans 15 jours, la semaine prochaine, c'est Daniel Amiche. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz. À Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 31 mai 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 1er juin de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.